Merci. Bonjour à tous et bienvenue pour ce conseil municipal. Non, il est 18h pile. Ouais, mais ça, moi, c'est l'heure du réseau, c'est pas l'heure de la...
Oui, mais ça, c'est l'heure du conseil.
Non, bah, elle est en retard. On va demander au service de régler l'horloge, elle est légèrement... d'une minute. Oui. Alors, je vais procéder à l'appel, monsieur Tom Laborde. J'en profite. Le Benjamin acceptait-il d'être le secrétaire de séance ? Merci. Monsieur Yann Guimard. Il n'est plus le Benjamin. Monsieur Pierre-Léon Luneau, qui est encore jeune. Madame Janine Le Golvan. D'accord.
C'est ce qui
s'appelle une entrée remarquée. Mais Janine attendait derrière la porte, c'est pas possible. Ah, d'accord. Madame Justine Vienne. Monsieur Charles Bietri vient de faire son entrée tonitruante. Il est donc présent. Madame Juliette Cordès. Monsieur Philippe Le Guénec. Madame Françoise Le Pennec. Monsieur Christophe Richard. Présent. Madame Morgane Petit, je l'ai vu. Monsieur Jean-Paul Cargosien. Madame Christine Desjardins. Présent. Monsieur Olivier Buquin. Présent. Madame Marie-Pierre Gasser. Monsieur Jean-Luc Servet. Présent. Madame Christine Lamandé. Présent. Monsieur Michel Durand. Présent. Madame Catherine Isoa. Monsieur Loïc Coudois. Madame Catherine Alain. Présent. Monsieur Gérard Marc-Albert. Présent. Madame Sylvie Robineau. Présent. Monsieur Pascal Lejean.
Présent.
Madame Nadine Rouet. Présent. Madame Katia Sculot aura quelques minutes de retard. J'ai son pouvoir dans cette attente, mais elle ne va pas tarder à arriver. Et Olivier Lepic. Nous serons donc au complet quand Katia nous aura rejoint. Nous pouvons donc siéger. Tom étant secrétaire de séance, nous pouvons donc passer immédiatement à l'approbation du procès-verbal de la séance du 12 mars 2021, et dont vous aurez noté qu'il n'est pas dans le dossier, puisque nous n'avons pas encore eu le temps de le rédiger. Il sera soumis lors d'une séance ultérieure. Quatre décisions du maire dans le rapport numéro 3. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions du maire ? Non, eh bien, on passe directement au marathon de Monsieur Lejean, puisque c'est un conseil municipal avec des questions financières importantes. Et donc, on commence par l'affectation de résultats 2020 pour la commune et pour le musée, Monsieur Lejean.
Tout à fait. Le slide ou pas, Philippe ? Le 3 et le 6, ça sera plus simple. Vous avez devant vous, voilà, effectivement, le détail. Donc l'affectation, le résultat global est à 3 804 000 euros. Il est proposé de verser 2 100 euros de l'excédent de fonctionnement de 2020 affecté à l'investissement pour 2021 et de garder 1 704 000 euros de part de l'excédent reporté en section de fonctionnement pour 2021. Ça, c'est pour le budget de la commune. Pour le budget, le slide 6... Pour le budget du musée, l'affectation est un petit peu plus simple. Résultat de fonctionnement 2020, zéro. Résultat de fonctionnement antérieur, zéro. Résultat de fonctionnement de clôture 2020, zéro. Affectation du résultat, pas d'excédent à affecter. Avez-vous des questions ? Okay. Qui c'est qui est contre ? Qui c'est qui s'abstient ? Merci. Le vote à l'unité. On va passer...
Chaud d'imposition.
Pardon. Non, mais il m'a stressé parce qu'il faut que je fasse vite. Alors,
J'ai dit synthétique, j'ai pas dit vite. C'est pas la même chose.
D'accord. Taux d'imposition communaux qu'il faut voter. Donc, on vous a présenté avec une petite différence de la loi Macron. Donc, vous avez une taxe d'habitation gel du taux en 2019 et à 10,10% et qui sera pour 2021 uniquement pour les résidences secondaires. Parce que la loi Macron est passée par là. Donc après, nous avons le foncier bâti, taxe foncière bâtie, qui était le taux communal à 14,89. On récupère le taux départemental pour compenser la perte de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc on va avoir un nouveau taux qui va apparaître à 30,15, qui va être le nouveau taux de référence, mais qui ne change pas les taux par rapport à 2019. Et derrière, on aura un taux d'écrêtement, puisque bien sûr, on va récupérer plus... De recettes sur le foncier bâti avec le taux départemental que la perte de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc il faudra redonner ce que vous avez expliqué il y a 15 jours, le trésorier. Et le foncier non bâti qui reste à 21,13%.
Donc en résumé, nonobstant les réformes Macron, les taux d'imposition ne changent pas.
tout à fait.
Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui ont compris cette réforme un petit peu complexe, je dois l'avouer. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au budget primitif de la commune, monsieur Lejean.
Pour 2021, donc on va revenir un petit peu sur ce que vous avez, je vous ai présenté un petit peu il y a 15 jours, hein, il n'y a pas grand changement. Je vous rappelle juste trois événements quand même au niveau de l'année 2020, la problématique du Covid, la pandémie, les élections.
Tout le monde a trouvé très beau là, un petit enchaînement à garder.
Non, c'est Philippe, c'est pas moi, là.
Ah, c'est Philippe.
Ouais. C'est Philippe qui a la main, là.
Tu peux le refaire, Philippe, juste pour le plaisir, là, non de...
Reviens sur les fondamentaux. Reviens.
Ça change tout au budget de la commune.
Voilà, on rappelle rapidement les fondamentaux que vous connaissez maintenant, puisqu'ils sont là depuis quelques années, hein, pour maintenir les chiffres de la commune et maintenir son investissement. Donc, je voulais juste rappeler les trois événements importants qui interviennent dans le BP. La problématique de la pandémie. L'année dernière, nous avons eu effectivement une élection... Et il y a eu ce problème de pandémie, donc un petit peu de retard dans la mise en place de l'ensemble du procédé de notre mandat, d'investissement de notre mandat. Et une autre chose qui intervient, qui est importante, c'est que ACTA, vous avez suivi la presse, donc les problèmes d'assainissement, donc avec des gros travaux sur notre commune qui vont être faits par ACTA sur l'assainissement et qu'on va nous en profiter en même temps pour pouvoir enfouir les réseaux et refaire les routes, que ce soit au niveau circulation véhicule, au niveau circulation douce et au niveau tout ce qui est place de stationnement. Donc voilà, donc ça fait qu'on n'aura pas un détail aussi précis que d'habitude. Je suis désolé. Voilà ce que je vous avais déjà dit à peu près il y a 15 jours. Donc on va revenir sur les excédents. Vous les avez vus. L'année dernière, on a un excédent en moins sur la section investissement et un plus sur la section fonctionnement. Donc, il couvre largement, mais vous les avez votés, donc on ne va pas s'éterniser dessus. Le budget global pour en BP pour 2021, en budget de fonctionnement, on prévoit 14 738 000 euros et un budget d'investissement à 7 711 000 euros. Sur les dépenses de fonctionnement, donc les charges à caractère général à peu près pour 2 802 000, les charges de personnel qui ont un petit peu été modifiées par rapport à un ajustement par rapport à ce qu'on vous avait présenté dans le DOB, les atténuations de produits, les dépenses diverses imprévues ex-Covid puisqu'on est toujours dans cette période-là et qu'on s'est préservé la possibilité de prendre des décisions. Pour l'instant, on ne sait pas trop où on va. Les autres charges de gestion courante, les charges financières, charges exceptionnelles et les dotations aux amortissements et aux provisions. Et après, vous avez les opérations d'ordre entre sections, les amortissements, les virements de la section d'investissement. C'est le prévu effectivement de 2021. Si je ne dis pas de bêtises, Philippe. Hein, une petite coquille, mais c'est pas grave, Tom. On mettra 10 euros dans le cochon.
Ah, c'est pas Tom qui l'a trouvé, ça compte pas.
Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, on va passer aux recettes. Les atténuations de charges, les produits de services du domaine des ventes, ils remontent effectivement, les impôts et taxes, les dotations et participations, les autres produits de gestion courante, loyer, et les produits financiers, pas énorme, c'est juste la renégociation de notre emprunt structuré ou une participation du fonds de compensation pour 6 000 euros, les produits exceptionnels pour 930 000, qui correspondent surtout, tout simplement, à la vente du terrain des Guémont. Les opérations d'ordre entre sections, les excédents de fonctionnement reportés. Avez-vous des questions ? Juste un petit rappel pour la dotation globale de fonctionnement de la DGF, mais vous l'avez vu il y a 15 jours derrière, hein, les descentes, l'État qui se désengage des collectivités. Donc on devient de plus en plus autonome. On la retrouve sur un graphe derrière avec 8 millions de pertes sur 11 années, hein, de DGF, par rapport toujours à le crevard de le slide qui démarre à 2010 derrière, mais ça je vous les ai présentés souvent. Ce qui était en rouge, c'était la contribution au désendettement de l'État qui avait été mis sous la mandature de notre président Hollande. Les investissements, Budget primitif des investissements. Alors effectivement, d'habitude, c'est un peu plus détaillé. Là, on a un petit peu moins. Donc, vous avez un solde d'exécution de la section d'investissement reporté qui était négatif de 246 000 euros. Une dotation fonds divers et réserves, 3 000 euros. C'est une écriture comptable. Remboursement du capital des emprunts. Comme d'habitude, ça augmente tous les ans, hein, puisque plus on arrive à l'échéance de nos emprunts, plus on rembourse de capital et un petit peu moins d'intérêt. Les subventions d'équipement versées, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, immobilisation en cours, dépenses diverses imprévues, voilà. Alors ça, c'est les travaux, effectivement, sur, entre autres, ACTA, que je vous ai mis, puisqu'on attend avec ACTA. On a eu la première, on a une réunion la semaine prochaine ou la semaine d'après pour valider, enfin, c'est déjà validé, la première phase de travaux, et il va en avoir après une deuxième qu'ils vont sans doute nous présenter. Et on verra comment on s'adapte, effectivement, à cette deuxième phase de travaux par rapport à où que ça se trouve. Les opérations d'ordre entre sections, les opérations d'ordre patrimonial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque c'est peut-être, mais vous avez le détail normalement que vous avez dû recevoir, sur le petit camembert qui reprend un petit peu ça. Voirie réseau pour 2,7 millions, mobilier matériel pour 677, bâtiment infrastructure 485, terrain, cimetière, jardin, donc ça c'est 334. Les opérations financières reprennent les amortissements et le remboursement du capital pour 1 616 000. Les études pour 154 000 euros. Les réserves foncières, aménagement saisonnier, on va le voir tout à l'heure, pour 1 200 000. Et le pluvial 464. Dedans, c'est surtout le réseau pluvial qui est à refaire sur Saint-Colomban pour un budget global de 800 000 euros étalé sur 3 années, dont 464 000 euros qui sera fait en 2021, puisqu'effectivement, on a de gros problèmes sur le secteur de Saint-Colomban. Mais si Gérard, après, il veut, il pourra vous détailler un petit peu effectivement les travaux d'eau pluviale sur Saint-Colomban qui vont être réalisés dans les 3 prochaines années avec un démarrage cette année. Parce que c'est quand même important et c'est quand même pas donné pour 800 000 euros. Je vous ai mis un autre petit crevard, comme je n'ai pas pu finir, valider l'ensemble des travaux, puisqu'il nous manque des éléments avec ACTA, ainsi de suite, mais vous donner un exemple un petit peu de ce qu'on voudrait, de ce qu'on prévoit de faire sur le mandat, entre autres, j'ai pris un exemple des circulations douces, pourquoi ? Puisque quand on va refaire effectivement les voiries avec les travaux d'ACTA, il y a une partie qui est consacrée aux circulations douces et différents travaux qu'on prévoit sur notre mandat et d'intégrer tout ce qui est circulation douce. Vous avez effectivement le boulevard Atlantique à côté. Alors je vous ai mis.
Juste préciser que c'est pas pour 2021, ça.
Non, c'est pas pour 2021. C'est un exemple que j'aurais dû pouvoir vous présenter si tout était ficelé. Il nous manque quelques éléments, c'est pour ça que je l'ai pas fait. On l'aura sans doute en cours de l'année et je vous le présenterai derrière un peu plus en détail. Ça, c'est un exemple. Et quand je vous mets les montants, c'est des montants dédiés uniquement à la circulation douce. C'est-à-dire que quand on refait le boulevard Atlantique, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Ça, c'est que le montant qui est dédié aux circulations douces, puisqu'on a, avec Gérard, travaillé sur tous ces travaux-là, entre l'enfouissement des réseaux, qui est un peu complexe, avec, comment je vous en ai parlé à la dernière fois, et je vous en ai parlé aussi en commission, avec Morbihan Énergie. Derrière, on a la partie voie roulante, et on a la partie circulation douce, qu'on a détaillée avec nos prestataires, pour pouvoir effectivement vous présenter. Voilà ce que j'aurais dû vous présenter dans chacun des thèmes qu'on avait prévu d'investir, que ce soit aussi bien le sport, puisque le jour nous avons parlé aussi du sport qui aurait dû, mais j'avoue que je ne suis pas complètement, voilà, j'ai été un peu pris par le temps et un peu sur les charbons ardents, voilà, pour être clair. Mais voilà un petit peu ce que vous allez voir après sur l'ensemble des thèmes qu'on peut avoir des travaux sur la commune. C'était un exemple et donc on arrivera, hormis qu'il nous manque sur ce graphe-là, dans les circulations douces, la phase 2 d'ACTA, vous voyez, elle est en rouge, elle est en prévisionnel, puisqu'on connaît déjà différentes choses, mais on sait à peu près ce qui va être fait, c'était pour vous donner, mais ce chiffre-là évoluera sans doute quand on aura effectivement la phase définitive des travaux d'ACTA. On va continuer, les recettes d'investissement. Alors, dotation fonds divers de réserve pour 1,5 million, l'affectation d'excédent de fonctionnement N-1, on l'a voté tout à l'heure pour 2,1 millions, et subvention d'investissement reçue 629. Alors, l'autre jour, j'ai parlé dans le DOB qu'on avait toujours du mal à dépasser à peu près les 300 000 euros de subvention, ainsi de suite. Là, on est sur un chiffre un peu plus important, tout simplement pourquoi ? Puisqu'on récupère les 350 000 euros qui avaient été investis avec EADM pour le parc Bellane et Bellevue, et dans la renégociation avec BSH, ils ont remboursé les avances qu'avait fait la mairie. dont 350 000 euros l'emprunt et dette assimilée, immobilisation en coupe, pardon, excusez-moi, virement prévisionnel de la section de fonctionnement 1,8 million pour 2021, puisque c'est comme ça que ça vient, produit de cession et immobilisation, c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas là que ça vient, opération d'ordre entre sections 910 000 euros, opération patrimoniale 20 000 euros. Avez-vous des questions ?
Le Jean, concernant les circulations douces, c'est-à-dire les investissements à 5,3 millions que vous avez prévus sur votre mandat, donc là, cette année, vous, on avait vu dans le DOB que vous aviez prévu 150 000 euros.
Fait, exact. Vous les avez là, donc ils sont à 900 000 euros en jaune très clair, qui correspondent à 6 années à 150 000 euros. Ça, c'est tout simplement sur des voiries qui ne sont pas refaites ou qu'on aura besoin d'avancer sur des circulations douces. Mais c'est des voiries qui ne sont pas prévues d'être refaites. Donc, on a mis un budget de 150 000 euros pour pouvoir avancer chaque année sur ces circulations douces.
Vous nous avez habitués justement à faire des APCP quand il y a des projets comme ça. Donc là, 5,3 millions, c'est un vrai projet. Est-ce que ça, justement, ça peut... Ça...
Vous l'aurez. Alors, vous ne l'aurez pas dans une APCP de circulation douce. Vous allez avoir, par exemple, une APCP sur le boulevard de l'Atlantique parce que ça sera sur plusieurs années. Et on retrouvera la quote-part de circulation douce dans cette APC-là, APCP-là. Pardon, excusez-moi. Mais effectivement, on va avoir des APCP hein, pour des gros travaux qui vont venir, que ce soit sur le sportif, que ce soit sur la voirie, sur différentes choses, on aura les APCP. Et après, j'aurai le détail dedans de la circulation douce pour reprendre ce graphe-là.
D'accord.
Sur boulevard de l'Atlantique, je vais vous donner un chiffre. Hein. C'est qu'un exemple. Hein. Si c'est 2,5 millions de travaux pour le boulevard de l'Atlantique, il y a 1 million pour la circulation douce, il y aura 1,5 million pour la voirie. Et les parkings.
Par contre, l'avenue du Guesclin, et monsieur Marc Albert nous avait présenté que je crois que c'est l'avenue du Guesclin qui va être faite en 2021, c'est ça, monsieur Marc Albert ?
Tout à fait.
Donc là, justement, les 150 000 euros qu'on a prévus en circulation douce, est-ce que c'est suffisant pour faire justement.
Non, 120 000 euros. C'est pas là-dedans. L'avenue du Guesclin va coûter 120 000 euros en circulation douce. Vous avez un mètre linéaire que je n'ai plus en tête, que je ne vais pas pouvoir vous dire, mais que j'ai dû le dire lors de la commission, qui a tant de mètres linéaires. À 100 euros du mètre linéaire pour un côté de la route, 100 euros du mètre linéaire pour un côté de la route, 100 euros pour l'autre côté, 200 euros pour la voirie. Voilà comment ça a été réparti. On prend les mètres linéaires et on multiplie pour la circulation douce. Et là, vous avez l'avenue du Guesclin, vous avez l'allée des Guémons, vous avez l'avenue d'Arvor. Alors, comme c'était des petits morceaux, je les ai un peu pas mis à suivre, hein, autrement le graphe était un peu moins lisible. Vous avez, en fonction du linéaire, vous retrouvez les montants spécifiques. Les 150 000 euros, qu'il y a en plus, c'est pour d'autres voies qui ne vont pas être touchées. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire la voie, mais qu'on a besoin d'aménager une circulation douce sur ces voies-là. Donc, lesquelles, je ne peux pas vous le dire.
Donc, pour l'avenue du Guesclin, dans le DOB, où est-ce qu'on les retrouvait ? Parce que je n'ai pas forcément...
Alors, dans le DOB, quand je vous ai présenté le DOB l'autre jour, il y avait un détail dans l'avenue du Guesclin où vous aviez les travaux d'enfouissement réseau électrique, là, c'est pris en charge par le SDEM et nous, on a une participation. Après, vous aviez les travaux d'éclairage et de télécom qui sont pris en charge par la mairie TTC, mais on a une subvention du SDEM. Après, vous aviez les coûts que la mairie prenait en charge pour faire la voirie avec la participation d'ACTA, puisqu'il y avait une partie qui était à leur charge, puisqu'ils avaient fait les travaux. Pour ceux qui étaient à la commission, je me suis bien... Mais je reviendrai, honnêtement, je reviendrai beaucoup plus en détail quand on sera calé là-dessus pour vous expliquer. C'est complexe, hein. C'est pour ça que j'ai aussi un petit peu de retard à ce niveau-là, parce que les retours du SDEM sont un peu lents, et ils n'ont pas le même fonctionnement qu'avant. Avant, ils prenaient tout en charge, et on devait faire une participation. Aujourd'hui, si c'est d'électrique, c'est eux qui prennent en charge, et on a une participation. Si c'est du télécom et de l'éclairage, c'est nous qui prenons en TTC, et c'est eux qui nous donnent une participation sur le hors-taxe. Donc ça a des impacts importants pour faire mon calcul entre mes recettes et mes dépenses, puisque je vous rappelle, il y a le FCTVA qu'on récupère une année après les investissements. C'est pour ça que aussi, c'est un peu plus complexe cette année.
Enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce slide-là, en tout cas dans la présentation du DOB, parce que concernant le budget primitif, en tout cas pour ma part, j'ai prévu de voter contre, parce que j'estimais que d'afficher 150 000 euros, ce n'était pas suffisamment ambitieux. C'est vrai que vous nous avez habitués à un programme plus ambitieux. Et d'autre part, c'est vrai que tout à l'heure, on va annuler la PCP concernant la salle multifonction. Bon, j'ai entendu le discours de M. Richard, je vous ai entendu aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, en tout cas pour la commune de Carnac. Ça fait des années, je reconnais. Tout le monde en parle et on ne le faisait pas. Vous aviez eu le mérite de l'afficher. et je trouve regrettable qu'on l'annule parce que comme c'est un projet, on aurait pu au moins la laisser et puis modifier les montants parce qu'à mon avis, ça va être d'autres montants.
Tout à fait. Alors, je suis obligé d'annuler. Je n'ai pas le choix d'annuler une APCP puisqu'on n'est plus dans le même montant. Ce n'est plus le même programme. Il était plus simple de l'annuler. Je suis désolé. L'objectif, c'est de faire mieux. Juste aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas affiché comme vous le dites. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ce camembert là pour vous montrer, même si effectivement, on n'a pas tout le détail, mais vous donner un exemple de détail de ce qui va être fait sur le mandat avec un ajustement. Les 150 000 euros, je répète, par an sur les circulations douces, c'est hors travaux où, effectivement, dans chaque travaux de voirie, est inclus les circulations douces, comme dans le boulevard de la plage, puisque le boulevard de l'Atlantique, c'est reproduire le boulevard de la plage en termes de fonctionnement de circulation douce.
Quant à la salle multifonction, c'est l'APCP qu'on arrête, hein. C'est pas le projet, hein, Madame Le Golban. Hein. Le projet, il va continuer à vivre. Mais simplement, comme il a été modifié, on ferme l'APCP pour éventuellement en ouvrir une autre quand le projet sera mieux cadré.
Et vous aurez une APCP.
On ne renonce pas.
Une APCP là, une APCP sur tout ce qui est le sportif et donc cette salle-là, il y en aura plusieurs APCP derrière.
On continue.
La dette, ben je vous l'ai présenté l'autre jour, je ne vais pas revenir dessus, hein, les évolutions, vous l'avez vu, il y a eu le détail, vous avez eu même l'extinction de la dette derrière, donc voilà, je n'ai pas grand-chose à dire que ce que j'ai dit il y a 15 jours. On va passer au suivant. On va passer au vote du budget primitif de la commune.
Est-ce qu'il y a d'abord des remarques ou des questions sur ce budget présenté par M. Lejean ? Donc, on va passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ? Alors, 4 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Le budget primitif 2021 est donc adopté. Je vous remercie, Monsieur Lejean. On continue.
Donc là, on va avoir le bilan d'activité de 2020 du musée, que je vais laisser la parole à Madame Isoard.
Oui. Donc, le bilan du musée, comme vous pouvez imaginer, est un peu morose, on va dire. Donc le musée de Carnac a connu une baisse de 50% en 2020 par rapport à l'année précédente. Donc pour des raisons sanitaires, le musée a fermé pendant 5 mois et demi. Et donc lors de la réouverture, l'accueil du public a été mis en place dans le cadre du protocole sanitaire un quota, donc un quota de 14 visiteurs toutes les 20 minutes. Donc non seulement donc, au niveau du public, on a baissé évidemment la fréquentation. Au niveau du public scolaire aussi, 614 élèves ont été accueillis en 2020 au lieu de 3300 donc, en 2019. Et les animations, bien évidemment, ont suivi la même courbe, c'est-à-dire qu'il y a eu 200 animations contre 800 en 2019. Donc les journées européennes du patrimoine donc, ont réussi quand même à être tenues. Donc ont accueilli 486 visiteurs. Par contre, la nuit des musées, programmée en mai puis après en novembre, a finalement été annulée. Donc c'est vrai que c'est un peu démotivant voilà, pour l'équipe. Surtout que là, pour le moment, on ne voit pas trop la notion d'ouverture pour 2021. Donc c'est un peu flou. Le positif, c'est que l'année 2020 a connu la conclusion du premier récollement donc, qui a été fait au niveau du musée. Donc celui-là est terminé et ils ont commencé un deuxième récollement donc, pour la suite, puisqu'il y a vraiment un trésor au niveau donc, du musée, au niveau des réserves. Le deuxième point positif, c'est bien évidemment le lancement du projet musée donc dans un avenir voilà, assez rapide, on espère. Donc là, les programmistes, on travaille vraiment dessus avec l'équipe du musée, avec les élus référents, et voilà, avec tous les acteurs en fait, de Carnac qui s'imprègnent vraiment de Carnac, et ça se passe très très bien, donc on avance. Au niveau des mouvements de personnel, donc effectivement, il y a eu 2 mouvements de personnel qui ont augmenté la charge au niveau des dépenses de fonctionnement. Le côté positif aussi, c'est la boutique qui, en fait, malgré la perte de fréquentation, a connu une augmentation du chiffre d'affaires. Parce que c'est vrai que les gens ont été amenés plus facilement à la fin de leur visite dans la boutique. Et visiblement, il y avait une envie de dépenser un petit peu pour profiter du musée jusqu'au bout. Donc les dépenses, c'est un total de 880 754 €. Et évidemment, la subvention d'équilibre communal, qui est beaucoup plus importante que d'habitude, donc qui se situe à 440 048 € pour cette année. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile avoir tous ces chiffres, mais l'équipe est toujours hyper motivée et continue à travailler, à préparer les animations pour les vacances de Pâques. C'est préparé en attendant l'ouverture, mais je pense que malheureusement, ça ne sera pas pour Pâques 2021 en tout cas.
Ouais, c'est vrai, ça fait partie de ces activités culturelles qui souffrent très fortement à cause de cette pandémie. Et donc, on espère tous qu'effectivement, peut-être à l'été, on pourra tous reprendre une vie normale, que ce soit les cinémas, les musées, les théâtres et toutes les activités dont on a été privés. Je ne parle pas des bars et des restaurants, mais et qu'on a tous hâte de retrouver.
En tout cas,
l'équipe, c'est vrai, je la croise de temps en temps, ils sont remarquablement motivés malgré l'épreuve, et ils ont tous hâte de reprendre, d'accueillir des visiteurs, parce que c'est un peu le...
Oui, ça leur manque.
C'est ce qui leur manque. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce bilan du musée qui n'appelle pas un vote, c'est juste une...
Une constatation.
Madame Le Golvan.
Moi, je trouvais que le bilan du musée, bien sûr, au-delà du nombre de visiteurs, n'était pas si négatif. C'est vrai qu'on avait prévu, vous aviez prévu l'an passé de ne pas faire payer certaines choses pour les commerçants ou les artisans, sur la commune, les droits de place et autres. Et pour le musée, on ne l'avait pas forcément peut-être exprimé aussi clairement. Bon, là, la note, elle est là, mais bon, après, c'est notre rôle de soutenir tout ça. Moi, ce que j'ai retenu quand même, quand j'ai lu le rapport d'activité, c'est que, contrairement aux idées reçues, en tout cas, ça va dans ce que je pense, c'est que finalement, il y avait moins de visiteurs et ils ont multiplié par 50% leur chiffre d'affaires. Je m'entends de... Alors, c'est pas des gros chiffres, mais quelque part, ils n'ont à vendre que ce qu'ils n'ont à vendre. Et je me faisais la remarque, c'est ce que je défends en tout cas, je pense que quand il y a trop de monde, on est moins enclin à consommer. Et là, on se rend compte d'ailleurs, ça peut être en tout cas un exemple, ça peut nous permettre de réfléchir en tout cas sur la politique touristique que l'on veut faire par la suite. C'est la question, c'est est-ce que d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, ça amène à consommer ou à acheter plus. Voilà, c'est la question que je me suis posée. Et à travers ça, je me dis, c'est peut-être un début de réponse, en tout cas, qui m'allait bien. Voilà.
Oui, après, je pense qu'il faut tirer le côté positif aussi de la crise. Donc, effectivement, il y avait un accompagnement, puisque c'était des groupes de 14 personnes. Donc, il y avait un accompagnement. Et effectivement, peut-être que ça a servi aussi à ce qu'ils aient envie de dépenser au niveau de la boutique. C'est une possibilité.
Donc. Alors là, justement, c'est bien ce que vous dites, parce que l'accompagnement, ça veut dire aussi c'est gage de qualité. Et je pense que notre commune, dans d'autres sujets, on parle souvent d'attractivité de la commune, de faire venir plus de gens. Enfin, on va le voir tout à l'heure dans le compte rendu d'activité de l'Office de tourisme. Mais finalement, est-ce que de vouloir, comme vous dites, mieux accompagner les personnes qui viennent nous voir sur Canac, le maire l'a dit l'autre jour, on a 650 000 visiteurs qui arrivent, de mieux les accompagner serait peut-être aussi de travailler plus en qualité et de faire en sorte qu'ils consomment, parce que c'est peut-être plus simple ou plus facile. Voilà.
Je pense qu'ils ont toujours été bien accueillis au musée. Moi, je parle du musée, c'est mon... Voilà.
Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ce bilan d'activité du musée ? Je vous propose de passer à la subvention d'équilibre au budget primitif 2021 du musée, monsieur Lejean.
Tout à fait. Donc, on va juste revoir un petit peu les chiffres. Donc, des charges à caractère général pour un BP à 140 000 euros, des charges de personnel à 460 000 euros, Catherine vous a expliqué la différence par rapport au BP 2020. D'autres charges gestion courante, 3 000 euros, charges exceptionnelles, il n'y en a pas. Opération d'ordre entre sections, 42 000 euros. Le virement à la section d'investissement, 41 000 euros. Donc, pour un budget de 686 000 euros en dépenses. En recettes, les atténuations de charges, il n'y en a pas. Les produits des services du domaine de vente pour 180 000 euros, effectivement. On reste toujours dans la problématique
du Covid. Donc ça, ce sont les chiffres avec qui on a travaillé avec l'équipe du musée, hein, qui nous ont annoncé ça. Les dotations de participation pour 6 000 euros, les autres produits de gestion courante, 489, bien sûr, vous avez la subvention de la commune. Les opérations d'ordre entre sections, 11 000 euros, donc pour un chiffre de 686 000 euros, pour que les budgets s'équilibrent en dépenses et en recettes. Sur la section d'investissement, vous avez les immobilisations incorporelles pour 103 000 euros, les immobilisations corporelles pour 51 000 euros. Donc dans les 103 000 euros, vous avez surtout l'étude qui est faite sur le musée, les travaux, et dans les immobilisations corporelles, c'est la fin de tout ce qui était le côté pour enfants qui était programmé et qui sera fini cette année. Voilà. Sur les indemnisations en cours, 6 000 euros. Les opérations d'ordre entre sections, 11 000 euros. Le déficit d'investissement reporté, 32 000 euros. Ce qui nous fait 203 000 euros. Et nous allons voir les recettes. Dans les dotations diverses, fonds de réserve, 3 000 euros. L'affectation de saison de fonctionnement, il n'y en avait pas. Subvention d'investissement reçue, 117 000 euros. L'emprunt et dette assimilée, il n'y en a pas. Les virements dans la section de fonctionnement, 41 000 euros qu'on a vu tout à l'heure. Les opérations d'ordre entre sections pour 42 000 euros, ce qui nous fait un total de 203 000 euros, ce qui est l'équilibre, les recettes et les dépenses.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget primitif 2021 du musée ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On continue, monsieur Lejean, avec les autorisations de programme.
Alors, les APCP, on en a vite fait de parler tout à l'heure. Je vous rappelle, on avait 5 APCP qu'on avait voté sur l'ancien mandat. La numéro 1, qui est l'honneur et l'église des Zambourg-Plage. Numéro 2, qui était le restaurant scolaire. La numéro 3, le rond-point du Nignol. La numéro 4, le boulevard de la plage. Et la numéro 5, la salle multifonction. Vous avez des restes à réaliser au niveau de 2021. Donc, vous avez les montants pour 1 157 000 euros, y compris la salle multifonction. D'accord, et d'autoriser le maire à procéder à liquidation et au endettement des dépenses correspondantes au crédit de paiement 2021 sus indiqué.
Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, on continue avec le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure.
Hein. Donc la clôture, hein, que Mme Le Golvan a évoqué tout à l'heure, la clôture, l'autorisation de programme numéro 5 de la salle multifonction. Donc effectivement, comme elle n'a plus de dette par rapport à ce qui était prévu, à l'endroit qu'elle était prévue, il y a besoin d'annuler cette autorisation de programme. Ça ne sert à rien d'aller si vite si elle n'avance pas. Donc c'est tout simplement de l'annuler, de clôturer l'autorisation de programme numéro 5 de la salle multifonction.
Donc il ne s'agit pas d'un abandon de la salle multifonction, hein. Il s'agit de l'APCP de la salle fonction. Est-ce qu'il y a des questions ? Je crois qu'on a évoqué le sujet. Est-ce qu'il y a des votes contre ? D'accord. 3. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Le rapport est adopté. Merci beaucoup. Monsieur Lejean, on continue avec
la création d'une nouvelle APCP, la numéro 6, hein, pour une réserve foncière et des aménagements saisonniers. Donc on vous propose de faire une APCP d'un montant total de 2 200 000 euros étalé sur 3 ans pour... En 2021, 1 million 2 pour en 2022, 500 000 euros et en 2023, 500 000 euros.
Des questions ? Monsieur Guimard ?
Si je ne me trompe pas, il y a la phrase aménagement foncier qui apparaît et qui n'était pas là la dernière fois. Qu'est-ce que vous entendez par aménagement saisonnier, pardon ? Qu'est-ce que vous entendez par là, tout simplement ?
Si vous voulez, aujourd'hui, nous avons un problème sur notre territoire de pouvoir loger aussi bien des jeunes couples, des jeunes familles, des saisonniers, ainsi de suite. Il y a une vraie demande, il y a une politique du département et une pression du préfet pour effectivement pouvoir loger nos saisonniers, puisqu'on a une vraie demande de nos acteurs économiques qui ont une problématique à ce niveau-là. Il y a une opportunité d'acquérir effectivement des terrains pour envisager sur une partie de faire des logements saisonniers. Cette partie-là, je ne sais pas si Olivier, il n'y a rien de secret, hein, c'est l'ancien camping des Pins, donc de pouvoir y faire, puisque je vous rappelle aussi, la commune aujourd'hui
à des mobilhomes qui se trouvent à Suresnes, à des mobilhomes des emplacements qu'elle loue au camping de l'océan pour loger ses propres saisonniers de la commune, c'est-à-dire soit des gendarmes, soit des sauveteurs en mer ou des pompiers. On en loge aussi en saisonnier au-dessus de la cantine. Et donc le problème, c'est de développer ça, puisque tous les ans, nous avons énormément de demandes de nos opérateurs économiques sur le territoire qui nous demandent si on a des logements pour pouvoir loger leurs saisonniers. Donc on a saisi cette opportunité pour effectivement envisager à ce niveau-là de remettre en place un camping dédié, dans ces cas-là, à nos saisonniers. Voilà.
C'est un projet, hein. Bon, en tout cas, on a une vraie problématique de logement des saisonniers sur à la saison. Quoi. Et je pense qu'il faut.
Certes, mais là, du coup, si vous parlez.
Fallait inscrire cette possibilité dans les APCP foncières, de manière à, s'il y avait une opportunité, bien de pouvoir la saisir.
C'est très bien. Juste, je voudrais une petite remarque. La dernière fois, vous nous avez dit que vous alliez vendre Saint-Colomban, puisque le projet, enfin, le dossier a l'air de se terminer.
Alors, pas tout Saint-Colomban, juste un terrain.
Oui. Effectivement.
D'abord, tout Saint-Colomban nous n'appartient pas. Donc.
D'accord. Même si
la mer est là. Je pense que Françoise ne passerait pas d'accord.
Et donc, ma phrase était, ou mon idée était, vous voulez vendre ce terrain-là par la suite. Et pourquoi vous ne le garderiez pas en foncier, tout simplement?
Bah, tu connais l'emplacement de ce terrain. Voilà, bon, on ne peut pas en faire grand-chose. Il est très enclavé. Donc, à part le céder pour une maison individuelle, voilà, c'est un sujet qui est sur la table depuis 6-7 ans, hein, puisqu'on n'a pas changé. Simplement, il y a eu un procès d'un des voisins, et donc on attend que ça se conclue. Mais malheureusement, on peut pas faire des logements saisonniers à cet endroit-là. Et il n'y a rien de véritablement, je dirais... en termes fonciers pour un terrain constructible utile pour la commune. Donc c'est pour ça qu'on veut s'en séparer en fait depuis le départ. Juste. Monsieur Luneau.
Ce terrain là qui est aussi un petit bois et un jardin public, pourquoi ne pas le conserver?
Bah parce qu'en fait il est tellement enclavé qu'il existe déjà mais personne s'en sert quoi, il est vide tout le temps.
Et donc, en fléchant pour
donc
en promenade il est exceptionnel.
Comment?
Il est exceptionnel pour se promener.
Bah, personne n'y va, en fait.
Il y a plein d'arbres qui vont être coupés.
Personne n'y va, en fait. Donc on va travailler sur d'autres endroits pour agrandir les parcs de la commune. Mais à cet endroit-là, malheureusement, personne n'y va. Quoi. Donc effectivement, c'est pas
mais
forcément...
Parce qu'il n'est pas indiqué.
Non, il est indiqué, mais je pense que c'est pas une question d'indication. C'est une question qu'il est totalement enclavé, qu'il y a deux petits accès et que donc il n'est pas passant. Et c'est pas quelque chose sur lequel on va spontanément parce qu'il est totalement enclavé derrière des maisons. Donc...
Je voudrais juste rajouter une petite chose quand même sur
on aura on va bénéficier pour ça des aides effectivement d'ACTA et du département qui nous suivront sur la problématique saisonnière, puisque comme je vous dis tout à l'heure, le préfet avait fait pression, on est allé à plusieurs réunions l'année dernière avec Delphine, entre autres sur la presqu'île de Quibon, c'est un gros problème. Donc ils ont ouvert le NV l'été pour pouvoir loger les saisonniers, et ils ont ouvert à Brec aussi un certain nombre de chambres à la FPA pour pouvoir loger des saisonniers. Le seul problème, c'est que tant que sur Quibron, le NV, on est relativement proche dans la presqu'île pour résoudre le problème de la presqu'île, tant qu'effectivement, à Brec, pour des saisonniers qui travaillent soit sur Locmaricaire ou la Trinité, ou Carnac, ou Erdeven, c'est un petit peu loin et un peu plus compliqué. Ceci dit, ça vaut au moins le mérite d'exister.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet APCP? Oui. Monsieur Luneau.
L'éventuel camping pour héberger des saisonniers, c'est en aucun cas un camping municipal? Ou c'est un projet camping municipal qui serait ouvert aux saisonniers?
Ce serait plutôt un camping municipal, oui, bien sûr. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par les autres saisonniers?
Non, autre public que les saisonniers. C'est pas un camping réservé aux gens.
Ah non, il n'y aura pas que les saisonniers. Ouais, on ne pourrait pas remplir un camping avec les saisonniers quand même. On a beaucoup de saisonniers, mais pas à ce point-là quand même.
Bon.
Là, ce serait.
Merci.
Ce serait.
Moi aussi, ça nous a interpellés quand on a regardé ce bordereau-là, parce que évidemment les réserves foncières, bah, pas de problème. Hein, je pense qu'on ne peut être que favorable. Mais ce qui me surprenait, c'est pourquoi, enfin, après vos explications, là, pourquoi dans ces cas-là, on n'a pas fait une ligne dédiée à, justement, par exemple, camping municipal, plutôt que... et de faire vraiment une...
La PCT, c'est multi-annuel, et donc, en fait, on peut la placer sur un programme quand on a décidé. Là, c'est des acquisitions foncières qui ont lieu à différents endroits. Donc, c'est une ouverture de crédit pour faire des acquisitions foncières. Mais comme elles sont à nombreux endroits, on garde cette souplesse en ne le ciblant pas sur une acquisition.
Ça, je suis d'accord. Mais justement, ça, je suis complètement d'accord. Quand on n'a que réserve foncière, ce que vous dites s'entend. Par contre, quand on rajoute et aménagement saisonnier, c'est là où, moi, ça m'a interpellée. Et vos explications, justement, me font penser que j'ai à peu près raison. C'est que vous avez, en effet, en achetant le camping des Pins, on estime que c'est une réserve foncière. Mais c'est vraiment dédié quand même à faire, vous venez de le dire à M. Luneau, un camping municipal. Donc c'est pour ça que je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait réserve foncière en 2,2 millions, peut-être moins l'acquisition future du camping des Pins, là, pour que ce soit vraiment une ligne dédiée. Et parce que quand vous allez l'aménager, évidemment, le fait de mettre des mobil-homes, le fait de l'aménager, de remettre tout en état, parce que si on connaît...
Madame Le Golban, pour une raison très simple, c'est que cette opération, elle n'est pas certaine encore. Et donc, si elle ne se faisait pas, on voudrait garder une possibilité d'avoir, justement, des acquisitions foncières dans le cadre de la création de logements saisonniers, peut-être ailleurs. C'est pour ça qu'on ne l'a pas isolée. Pour l'instant, on n'a pas, pas conclu avec le propriétaire. C'est vraiment une hypothèse aujourd'hui sur laquelle on travaille. Et tout simplement, c'est pour garder de la souplesse. Si ça ne se fait pas, on pourra peut-être avoir l'opportunité de le faire ailleurs. Et donc, on ne se ferme pas cette possibilité en inscrivant quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas certain.
Je ne suis pas convaincue de vos arguments, mais enfin bon. Une deuxième ligne aurait été
désolé,
bien.
Je suis désolé, je ferai mieux la prochaine fois, madame Le Golban. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote sur cette création d'APCP numéro 6, réserve foncière et aménagement saisonnier. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 12, monsieur Lejean. Je pense que c'est peut-être pas la peine de donner le détail, hein. Tout le monde en a pris connaissance.
Tout à fait, hein. C'est juste les subventions aux associations. Hein. Donc vous avez dans le numéro 1, c'est les versements à des œuvres sociales, c'est l'amicale des employés municipaux. Juste pour préciser, subvention de fonctionnement aux associations, en total 2, et subvention exceptionnelle.
Alors, je vous rappelle que s'il y a des membres du bureau d'une association, ils doivent se manifester pour ne pas participer au vote. Hein. Voilà. Monsieur Jean-Paul Kergosien et Monsieur Philippe Le Guénec sont membres, laissez-moi deviner, du Bagad de Carnac. Yann aussi. Yann, c'est l'UCC ? Ok.
Non, Jean-Paul, c'est...
Ah, c'est pas le Bagad, t'es pas au bureau.
C'est comme le comice.
Ah, c'est le comice, pardon. Oui, président du comice. Excusez-moi, monsieur Kergosien. Donc, il faudra retirer... Est-ce qu'il y a des questions où on peut passer au vote ? Monsieur Luneau ?
Je me pose la question. Je trouve que la commune n'est pas très généreuse par rapport au budget dépensé dans d'autres postes comme l'encouragement au tourisme, la publicité. Et je trouve qu'on pourrait faire mieux.
Alors, en fait,
je trouve que les montants ne sont pas élevés.
On répond aux
les associations à Carnac, c'est très important.
Monsieur Luneau, si vous saviez comment ça fonctionne, en fait, on répond aux demandes des associations. Et en général, on répond exactement aux demandes qu'ils ont effectuées. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On ne donne pas plus que ce que l'association demande.
Parce qu'on les a habitués à ça ou...
Non, parce que les gens sont raisonnables et quand ils ont des activités et des trucs, ils demandent ce dont ils ont besoin, pas plus. C'est de l'argent public. Oui ?
J'aimerais rajouter juste que cette année, il faut se rendre compte que depuis le mois de mars, beaucoup d'associations ne fonctionnent plus. Donc, comme elles n'ont pas de vision à long terme de ce que va devenir leur association, quelles activités peuvent reprendre et à quel rythme, pour l'instant, il y a beaucoup d'associations qui restent en stand-by et qui attendent. Donc, il y a cette différence qui est quand même notable dans le montant des sommes versées, proposées pour les associations, tient aussi au fait du Covid qui a vraiment donné un coup de frein énorme sur les associations. Voilà.
Merci.
Effectivement, il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas fait de demande cette année parce qu'elles n'ont pas d'activité. Donc, et donc, elles espèrent tous. Et évidemment, on sera. Mais là où je reprends la remarque, c'est que le tissu associatif est très, très important. Et je pense qu'on sera sûrement amené à se prononcer peut-être sur des subventions exceptionnelles au moment où les associations vont reprendre leurs activités. Et peut-être, là, auront besoin de financement, je dirais, en dehors du calendrier financier classique de la commune. Donc ça, n'hésitez pas à remonter voilà, ce genre de demande si d'aventure c'est nécessaire. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote, donc hein, en retirant les votes des personnes qui sont membres du bureau d'une association. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, toujours la déchirante question des admissions en non-valeur.
Donc, comme vous l'avez, hein, donc c'est pour un montant de 235,30 € qui correspond à des repas au restaurant scolaire donc qui datent de 2015 et de 2016. Donc, vous en aurez encore quelques-unes, hein, puisqu'au fur et à mesure, on fait ce qu'on met un petit peu d'ordre dans des factures non payées ou des titres non payés qui traînaient un petit peu.
Pas de questions? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, il s'agit de la convention de partenariat entre le Centre des Monuments Nationaux et la commune. Vous savez que Skedanos est un spectacle Nuit scintillante en breton qui se déroule chaque été dans les alignements et que nous avons donc depuis quelques années un partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux qui gère ces monuments. Et donc il vous est donc proposé d'approuver les termes de la convention de partenariat entre la commune et le Centre des Monuments Nationaux. Et au terme de cette convention, donc le Centre des Monuments Nationaux s'engage financièrement à hauteur de 30 000 € par an pour la réalisation de cet événement, dont vous trouvez les dates dans le rapport et qui est en cours d'organisation, puisque nous sommes en train de désigner le prestataire qui sera chargé d'organiser le spectacle cette année, tout en souhaitant évidemment qu'il puisse avoir lieu, évidemment, ce qui n'est pas non plus une certitude. Donc voilà pour cette convention de partenariat entre le Centre des Monuments Nationaux et la commune. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Le Golban.
Oui, moi j'aimerais savoir ce que vous entendez donc par rapport à Skedanos. Vous écrivez plus globalement dans le cadre de la démarche d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que Skedanos va avoir dans la...
Alors, dans l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a une dimension qui est très importante, qui est celle de mise en valeur auprès des populations locales, mais également des populations mondiales, du patrimoine culturel en général. Et donc, au titre de l'inscription, le dépositaire est tenu d'organiser des événements culturels, pédagogiques, historiques, scientifiques, liés à... la mise en valeur de ce site. Et donc, d'ores et déjà, dans le cadre de Paysages des Mégalithes, nous avons une volonté et un certain nombre d'événements qui sont organisés dans ce cadre. Je pense à l'exposition Zachary Le Rouzic, je pense à un certain nombre d'expositions qui sont réalisées par Paysages des Mégalithes, qui tournent d'ailleurs dans l'ensemble des communes du territoire et qui ont vocation à mettre en valeur auprès des habitants notre patrimoine mégalithique. Et donc, c'est une des dimensions de l'inscription au patrimoine mondial.
On estime que cette mise en scène est très importante pour valoriser en fait notre site, quoi. C'est...
Ah bah oui, c'est une façon de faire connaître le site d'une autre manière, oui, tout à fait.
Mais si j'en reviens à ce que vous disiez la dernière fois, quand on sait qu'il y a 650 000 personnes qui viennent visiter, est-ce que c'est déjà pas quelque chose, un chiffre déjà important sur le fait que c'est déjà médiatisé?
Oui, donc.
Deuxième remarque que j'évoque à chaque fois, finalement. On sait qu'à Carnac, en effet, que ce soit juillet-août, la saison touristique, on a une clientèle qui est là, qui vient pour la plage, les menhirs, enfin bref, tout le capital que l'on a. Par contre, souvent, on évoque aussi le fait que sur les ailes de saison, ce serait bien, voilà, de faire... Enfin, en tout cas, de faire en sorte que Carnac soit toujours attractif et faire venir du monde. Ce que je pose comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'obstine à faire, bon là cette année c'est que août, mais pourquoi est-ce qu'on s'obstine à faire une animation quand il y a du monde et qu'on ne fasse pas cette animation justement sur les ailes de saison où ça pourrait faire venir du monde et peut-être faire vivre la station plus large, enfin dans des périodes plus larges, quoi, tout simplement. Okay.
Je répondrai rapidement parce que c'est votre marotte. D'abord, on ne fait pas des manifestations quand il n'y a personne. C'est en général pas très productif, ni pour les gens qui organisent le spectacle, ni les gens pour les bénévoles qui y travaillent. Deux, effectivement, on travaille sur les ailes de saison, hein, Festival Terraquet, un certain nombre d'épisodes qu'on essaye de et d'animations qu'on essaye de positionner en avant et en après-saison. Mais on se doit aussi, pour rester attractif, Madame Le Golvan, eh bien, quand nos visiteurs sont sur le territoire, eh bien, de leur proposer des événements culturels et artistiques. Et c'est pour cette raison qu'on organise Skeidanos au mois d'août. Et c'est aussi pour ça que cet événement a un énorme succès et qu'on continuera à le faire pendant la haute saison.
Il a du succès parce qu'il y a du monde sur la station. Un vrai succès, ce serait quand, justement, quand vous dites on ne fait pas d'animation quand il n'y a personne, l'idée, ce n'est pas de faire une animation quand il n'y a personne. L'idée, c'est de faire une animation pour faire venir du monde, enfin, je pense.
Il faut faire venir du monde ou il ne faut pas faire venir du monde? Je ne comprends plus très bien.
L'animation, c'est pour faire venir du monde.
Pas forcément. Mais je ne sais pas où vous avez lu, Madame Le Golvan, qu'on veut faire venir plus de monde. Parce que vous répétez ça en permanence, mais c'est écrit nulle part dans la politique de la commune. Hein. On ne veut pas faire venir plus de monde.
La politique de...
Non, mais ça, c'est que vous disiez ça parce que vous aviez trouvé un biais pour critiquer ou du moins pour émettre des opinions divergentes sur la politique touristique de la commune. Mais à aucun moment, on veut faire venir plus de monde.
Bah, il suffit de lire le rapport d'activité de l'Office de tourisme. Quand vous voyez que vous augmentez le budget pour acheter des mots-clés, pour faire toute cette publicité Internet, je regrette.
Madame Le Golvan, il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu une petite pandémie cet été, l'été dernier, qu'au printemps et à l'automne, on n'a eu personne. Donc oui, on a besoin de se refaire une image et de faire en sorte qu'on retrouve au moins les niveaux d'avant la crise. On ne va pas arrêter...
Le budget au niveau de tout ce qui est publicité Internet, au niveau de l'Office de tourisme, depuis votre premier mandat, on est passé de 30 000 euros, on est à 140 000 euros. Donc,
Madame Le Golvan, il vous n'aurait pas échappé non plus que Internet s'est un peu développé au cours des 15 dernières années et qu'il devient le lieu dans lequel la compétition commerciale a lieu. Et maintenant, effectivement, c'est beaucoup moins des échanges physiques dans les offices. La bataille touristique se joue sur les réseaux, oui, effectivement. Madame Le Golvan, vous êtes venu à Carnac parce que vous habitiez ailleurs. Vous êtes venu à Carnac sans doute parce que, pour les mêmes raisons que moi, enfin, moi, c'est par amour, trouver une carnacoise, pas eu de chance. Vous êtes venu à Carnac. Et maintenant, on a l'impression que voilà, vous y êtes et qu'il faudrait réserver ça pour les gens qui sont venus. S'il y a d'autres gens qui veulent venir à Carnac, c'est aussi que, comme vous, comme moi, comme tout le monde autour de cette table, ils trouvent la commune attractive. Ceci dit, le tourisme de masse, ce n'est absolument pas l'alpha et l'oméga de la politique touristique de la commune. Il est hors de question, on n'aurait pas fait une AVAP, on n'aurait pas des règles d'urbanisme aussi strictes si on voulait faire du tourisme de masse. Donc je comprends bien que c'est votre biais de dire on veut faire venir des gens, mais j'allais dire, si, quand on habite à Carnac, on ne trouve pas que l'activité touristique est un bien fait pour la commune, que c'est une chance. Il y a plein d'endroits en centre-Bretagne où on peut passer toute sa vie peinard sans voir un touriste. Malheureusement, quand je vais les voir, ils sont plutôt à nous envier cette richesse qu'est le tourisme, avec lequel il faut jouer avec réserve et raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il est hors de question qu'on se transforme en Palavas-les-Flots, ou qu'on ait des immeubles, ou qu'on accueille, ou qu'on ait une volonté de doubler le nombre de... D'ailleurs, vous regardez le nombre de lits marchands sur la commune, Madame Le Golvan, il n'a pas bougé quasiment depuis 15 ans. Donc il faut arrêter de dire qu'on veut accueillir plus de monde, qu'il y a de plus en plus de monde. Ça n'est pas vrai. Les chiffres le montrent. Et à chaque année, on vous le dit, à chaque année, vous répétez la même chose.
C'est la politique que vous venez. Alors quand vous dites qu'en effet, on achète pour quand on vient à Carnac habiter, on vient en connaissance de cause. On sait très bien que c'est une station balnéaire. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut continuer à vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est justement qu'il n'y ait pas ce tourisme de masse. Quand on voit la politique, en tout cas, que vous affichez, pour moi, ça va dans ce sens-là. Donc je défends, en effet... le fait qu'on soit une station balnéaire, le fait que le vivre ensemble soit possible et qu'en effet, on ne soit pas cloîtrés, obligés en tout cas de ne plus sortir aux mêmes horaires ou de faire nos courses différemment et de changer notre façon de vivre parce qu'on accueille de plus en plus de touristes. Voilà, c'est tout.
Madame Le Golvan, là vous êtes encore une fois dans la posture, je suis désolée d'en arriver là, mais comment pouvez-vous tenir ce discours alors que vous louez votre résidence principale sur Airbnb ?
Eh bien, écoutez, ça, c'est très personnel.
Non, c'est pas personnel.
Ah, ben,
à
si,
ce moment-là,
si,
il y a un
si.
Moment, il faut être cohérent. Il faut pas dire, on est contre le tourisme ici au conseil municipal.
Au conseil
et
municipal.
Puis, dans sa vie personnelle, en tirer des revenus, en attirant plus de gens, parce qu'effectivement, avant, Airbnb n'existait pas. Donc, il faut être cohérent, parce que sinon, c'est de la posture.
Du
et
tout.
C'est pas sincère.
Donc, pas du tout, monsieur le maire. Alors là, on va, si vous voulez, et je trouve ça regrettable d'avoir à me justifier en plein conseil municipal sur les traitements. Non, mais je vais y aller.
Mais il faut être cohérent.
Et je vais y aller.
Il faut être cohérent, madame Le Golvan.
Je suis très cohérente.
Non, pas du tout.
Je suis très cohérente.
Pas du tout, vous ne l'êtes pas.
Je loue ma résidence principale parce que quelque part, je vis seule. Et j'ai envie de continuer à vivre à Carnac, de pouvoir payer mes impôts, de faire tout ce que j'ai, de faire et d'entretenir ma maison. Tout simplement. Oui. Et je trouve regrettable, et vous le savez en plus, d'avoir à me justifier devant tout le conseil parce que, il y a des choses qui vous sont répréhensibles, et je ne le dis pas par égard. Franchement, c'est déplacé de votre part.
Non, c'est pas déplacé,
petit,
madame Le Golvan.
C'est petit,
madame
c'est
Le
pas
Golvan.
Le problème.
Madame Le Golvan, il faut être cohérent.
Non,
vous tapez en permanence.
Ça, c'est de l'abus de pouvoir de votre part. Vis-à-vis de moi,
quoi,
j'appelle ça du harcèlement politique.
En quoi un abus de pouvoir
D'oser.
D'oser dire, par exemple, qu'il y a trop de touristes à Carnac qu'il leur faut baisser, et en même temps, dans votre comportement de citoyenne, faire exactement le
mais
contraire.
Mais monsieur Le Pic, je n'ai pas besoin de votre surplus de tourisme pour arriver à louer. C'est pas les 3 semaines que je loue l'été, en tout cas, qui quelque part, il n'y a aucun problème.
Mais si tous les Carnacois faisaient la même chose, madame Le Golvan, qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Il n'y aurait pas plus de touristes sur la commune?
Du tout.
Ah bon, si tous les Carnacois louaient leur résidence principale l'été, il n'y aurait pas plus de touristes sur la commune.
Mais tous les Carnacois n'ont pas, je dirais, moi, j'aimerais ne pas louer l'été, croyez-moi, c'est ma résidence principale quand même. Donc, si je le fais, c'est pour pouvoir continuer à vivre, et il y a d'autres Carnacois comme moi. Donc, arrêtez un petit peu.
Non, madame Le Golvan, il y a plein de gens qui vivent du tourisme dans cette station.
Peut-être, mais moi, j'en vis pas. Ça me permet de rester vivre à Carnac. C'est complètement différent.
Et vous les stigmatisez parce que une grande partie de l'économie de la commune.
Je stigmatise votre politique.
Du tourisme. Mais, vous la stigmatisez, mais encore une fois, je vous ai dit, où voyez-vous qu'on veut faire venir plus de tourisme? Aucun. À aucun endroit, je ne l'ai jamais dit, on ne l'a jamais écrit. Donc soyez cohérente, on n'a jamais dit ça. Ça n'est pas la politique touristique de la commune. Monsieur Luneau.
En faisant de la pub sur des bus à Lille, c'est quand même pour faire venir un maximum de touristes.
Allez. Monsieur Guimard.
Quand même être cohérent. Quand même.
Monsieur Guimard.
Par rapport à cette évolution de la population touristique, le projet UNESCO va amener nécessairement beaucoup plus de monde.
Non, pas nécessairement.
Si, nécessairement. Tous les rapports UNESCO le disent.
Non. Pas, au contraire.
Bah, si.
Mais non. D'abord, l'UNESCO, ce n'est pas que Carnac, encore une fois. Enfin, ne faisons pas cette erreur. Ne faisons pas cette erreur. L'UNESCO, c'est 26 communes, c'est 686 sites classés et inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc c'est sur l'ensemble du territoire. Donc, au contraire, les gens ne vont plus aller simplement voir les alignements, mais ils vont être l'ensemble du patrimoine mégalithique va être mis en valeur. Donc non, c'est pas forcément de la fréquentation supplémentaire. Madame Culot.
Alors je tiens à rajouter, puisque vous vous fixez sur UNESCO Carnac, donc je tiens quand même à préciser que avant Carnac, ce classement, il y a ce territoire intercommunal, 24 communes, qui, justement, attend ce classement à l'UNESCO, parce que vous fixez ça sur Carnac, mais il y a une intercommunalité de 24 communes qui sont favorables, parce que même pour eux, ça va leur apporter une manne, et pas forcément à Carnac, où ça va surpeupler la population.
Bon, on va pas refaire ce débat, de toute façon, il a eu lieu pendant la campagne municipale, donc je pense que pour l'UNESCO, la question est plutôt sereine. Est-ce qu'il y a des votes contre cette convention entre le Centre des Monuments Nationaux et la commune, pour ce qui est d'Anoz? Est-ce qu'il y a des abstentions? Le rapport est adopté, je vous remercie. Madame Robineau, le bilan d'activité du CCAS 2020?
Oui, ça va être tout à fait différent, hein. Le rapport d'activité, donc on vous fait une présentation du CCAS. Bon, pour beaucoup de monde ne savent pas ce que c'est un CCAS. Généralement, on se pose toujours la question. Donc, un CCAS, c'est un établissement public qui a pour le but d'accueillir des gens et d'avoir des missions bien particulières. Il y a des attributions spécifiques obligatoires et les attributions facultatives. Et dans les attributions facultatives, dans le rapport, si tout le monde l'a lu, ben on constate que il y a au niveau des impayés, du secours exceptionnel, de l'aide alimentaire qu'on a mis en place, on n'a pas eu de demande plus que ça cette année. Par contre, je pense qu'en 2021, on va certainement avoir beaucoup plus. C'est le constat qu'on a fait au niveau de l'aide alimentaire, des choses comme ça. En 2020, ça a été un petit peu plat. Ce qu'on se constate aussi, c'est que au CCAS, il y a le service d'aide à domicile, il y a l'établissement, la résidence autonomie. Et dans le service d'aide à domicile, ce qu'on constate, il y a une baisse de demandes. Mais ça, c'est plutôt morbihanais. On ne sait pas ce qui se passe. En fin de compte, je ne sais pas si c'est l'effet Covid, mais il y a peu de demandes de prise en charge de services d'aide à domicile. Alors, soit les gens ont préféré aller dans des établissements style EHPAD pour se sécuriser, ou on ne sait pas trop, c'est partout pareil ou dans le Morbihan. Donc, on a mis en place aussi un transport à la demande. Bon, là, pour l'instant, c'est le calme plat, parce qu'avec le Covid, on a été obligé de suspendre ce transport, au grand dam de beaucoup d'usagers, parce que c'est un transport qui d'ailleurs, toutes les communes à côté nous envient et qui fonctionne très bien. Bon, c'est une volonté politique, hein, parce que c'est quand même pas, ça nous rapporte quand même pas grand-chose, ça nous coûte plus, mais bon, c'est une volonté politique et il y a beaucoup de communes autour qui pensent mettre ça en place, peut-être avec nous plus tard, je ne sais pas. Et autrement, on a mis en place aussi la mutuelle solidaire qui fonctionne très bien. Beaucoup de personnes de Carnac sont contentes de bénéficier de cette mutuelle parce que il y a énormément de gens qui ne peuvent pas avoir de mutuelle au niveau de leur entreprise, les indépendants, les commerçants, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de mutuelle, donc ils sont bien contents d'avoir cette aide. Voilà ce que je peux en dire. Après, je suis disponible pour des questions si vous avez des questions au sujet du CCAS, plus clairement.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité 2020 du CCAS, qui est une année évidemment très particulière également pour le CCAS, hein. Olivier ?
Oui, non, simplement une observation, un remerciement à Sylvie, parce que je trouve que le rapport est extrêmement intéressant, bien fait, très clair, et qui met vraiment en valeur tout ce qui est fait par le CCAS. Je pense qu'au-delà, il parle de lui-même et on peut vraiment, encore une fois, se féliciter de la mobilisation de l'équipe en permanence. C'est vrai depuis toujours et ça a été particulièrement vrai pendant la crise. On les a vus tout le temps, même au plus fort du confinement. Je pense qu'on peut tous ici, et je sais qu'autour de cette table, on sera tous réunis pour saluer toute l'équipe. Donc bravo vraiment, Sylvie, à leur transmettre.
Je voulais ajouter aussi, c'est par rapport au Covid, la solidarité, comme dit Olivier, la solidarité carnacoise. En quelques chiffres, il y a eu 40 bénévoles qui ont proposé leur aide pendant la crise sanitaire. 81 personnes isolées ou vulnérables ont été contactées plusieurs fois par une équipe de 4 bénévoles. Et 52 demandes de courses, dont 20 foyers, ont été assurées par 13 bénévoles. Moi, je peux vraiment saluer tout le bénévolat des Carnacois, parce que franchement, on est très solidaires. Et même ne serait-ce aussi pour l'aide alimentaire, vraiment très content. Et c'est vrai que le personnel font un beau travail. Et c'est vrai que nos rapports d'activité, je les remercie parce que vraiment, ils font un bon travail.
Vraiment, on a la chance d'avoir deux Sylvie, plus une Maëlle, plus l'ensemble des personnels qui sont vraiment très, 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 très engagés. Et je l'ai constaté lors de la collecte alimentaire. Quand on voit les montants records qui ont été collectés à Carnac cette année, c'est à la fois un formidable message que nous envoient les Carnacois de solidarité, parce qu'ils ont participé à un point. Enfin, on avait dans nos collègues des gens des communes à côté qui étaient juste baba devant les tonnages qu'on arrive à récupérer à Carnac. D'ailleurs, on en donne aussi aux autres communes, hein, tellement les Carnacois sont généreux. Et donc ça, c'est vraiment un bijou qu'il nous faut continuer à polir, le CCAS, et surtout l'ensemble des personnels qui y contribuent, parce que c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a de la souffrance à Carnac, il y a des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, et c'est très important que le CCAS leur apporte. Voilà, moi, j'ai appris beaucoup de choses en siégeant au CCAS, y compris que on pouvait avoir des gens en difficulté qu'on ne voyait pas au quotidien, mais ils étaient là, et quand on voit certains dossiers, enfin, je le dis souvent, mais ça me marque. Il y a de la misère à Carnac, et heureusement que le CCAS est là, et la commune, pour essayer de la limiter.
Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que par rapport à la subvention, un CCAS, c'est un établissement public, c'est pas comme l'office de tourisme, ça vit pas, on n'a pas de revenus, on vit que par de legs, des dons. Bon, on a déjà eu un bon leg, mais c'est que pour la résidence autonomie, c'est pas pour le CCAS en général. Mais bon, ça vit que par la subvention municipale et par les legs et les dons. Et puis, bon, quelques rentrées du casino, mais comme le casino est à sec en ce moment, donc du coup, on n'a plus rien. Et les dons des mariages, chez le maire, bien. Enfin, voilà, c'est tout.
Je commence demain les mariages, alors ouais. J'espère que ça va. Donc, pas de vote pour ce bilan d'activité, je vous remercie. Comme effectivement, il faut des sous, monsieur Lejean, pour faire vivre le CCAS, on va passer à la subvention.
Tout à fait, Sylvie a un petit peu parlé. Donc, il y a une subvention, comme tous les ans, pour le CCAS. Donc, il y a deux lignes. Il y a une ligne à 140 000 euros pour le fonctionnement et une ligne à 10 000 euros pour les animations. Les animations et le repas des anciens, en général, qui étaient fichés avant. Vous aimez bien, le repas des anciens n'a pas eu lieu cette année. Donc, pourquoi la subvention ? Sylvie vient de vous l'expliquer. Le CCAS, dans le cadre des prélèvements de jeux par l'État, reçoit une quote-part, un petit pourcentage de ce que prélève l'État sur les jeux, donc du casino, et le reverse aux actions sociales, donc au CCAS. Et effectivement, le casino ayant une problématique de fonctionnement, vous l'avez vu dans les budgets, puisque ça a quand même bien chuté les retours, le CCAS n'a pas pu bénéficier. Donc la collectivité s'est substituée derrière pour maintenir les finances du CCAS en fonctionnement.
Je vous invite tous à aller jouer au casino dès qu'il sera ouvert, si vous voulez aider le CCAS. Vous n'y voudrez pas... Et pas que le CCAS, mais... Est-ce qu'il y a des questions sur cette subvention au CCAS ? Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie pour le CCAS. Monsieur Richard va nous parler des subventions au Yacht Club.
Oui, merci monsieur le maire.
Et la convention de partenariat.
Voilà, donc il vous est proposé donc aujourd'hui de vous prononcer sur l'attribution d'une subvention de 38 000 euros à l'association du Yacht Club pour l'organisation des manifestations nautiques sur les ailes de saison. C'est quand même important. J'ai cru comprendre que c'était important, les ailes de saison. Donc, sur les ailes de saison. De sponsoriser, évidemment, les jeunes sportifs de haut niveau sur le Yacht Club, qui sont au nombre de 10 sportifs de haut niveau. Et de continuer à soutenir, bien évidemment, l'école de sport. Et de donner l'autorisation à monsieur le maire de signer cette convention.
Et s'il y a des questions sur cette convention avec le Yacht Club, convention évidemment annuelle. Morgane ?
Dans le cadre où ça n'aurait pas lieu les régates, c'est prévu que...
C'est les participations seront annulées.
On espère qu'elles auront lieu.
Oui, l'idée c'est qu'elles puissent avoir lieu, oui. Ça serait quand même mieux.
Est-ce qu'il y a des votes contre cette convention avec le Yacht Club qui va plutôt bien, comme l'a dit d'ailleurs Christophe, plutôt mieux que...
Depuis deux ans, on peut quand même affirmer que le Yacht Club est sur une stratégie, et ils se sont entourés en tout cas de cabinets extérieurs pour réfléchir à leur stratégie, et depuis deux ans, et la partie financière et la partie, on va dire... stratégie nautique est beaucoup plus claire, beaucoup plus affirmée et plutôt pérenne dans le temps. Mais ce n'est pas fini. Il y a d'autres réflexions qui sont en cours et qui devraient aboutir sur d'autres propositions pour le sport nautique à Carnac. Voilà.
Est-ce qu'il y a des votes contre cette convention ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, demande de renouvellement de classement en première catégorie. Bon, ça, c'est pareil, c'est
ouais. Donc là, on va passer dans l'office du tourisme, même si on en a un petit peu déjà débattu pour les prochains points. Donc là, c'est le renouvellement du classement en première catégorie de l'office du tourisme qu'il avait eu en, le 4 avril 2016 pour une période de 5 ans. Et donc, il faut le renouveler pour ce classement de première catégorie, puisque je vous rappelle que nous sommes une station touristique avec un office du tourisme classé première catégorie. Des questions ?
Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, toujours le rapport d'activité ?
Oui, vous avez tous eu le rapport d'activité, puisqu'on en a un petit peu évoqué tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas rappeler les événements de 2020, la crise du Covid, la problématique des fermetures, la réouverture, donc bien sûr des visites, plutôt une activité touristique qui est en baisse, hein. Vous avez pu le voir sur le graphe. Je voudrais juste... J'aurais peut-être dû commencer déjà par le début. Je suis vraiment désolé. Je suis un peu perturbé. Je voulais rendre un petit hommage à Sonia qui nous a quittés le 3 mars, qui est arrivée à l'Office du Tourisme en 99 en tant que saisonnière, qui a démarré en CDI à partir de 2002, qui s'occupait de l'accueil et des manifestations, entre autres touristiques, il y a pendant l'été. Et donc, il est décédé le 3 mars d'une leucémie avec une longue maladie qui laisse... un mari et deux enfants. Voilà, donc je voulais lui rendre un petit hommage. Ça a été très discret, à sa volonté, à la demande de la famille. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui a été fait, qu'on n'a pas du tout communiqué dessus, parce que c'était à la demande de la famille qu'on voulait rester discret. Et je voudrais remercier Sonia, que en plus j'ai connue moi avant qu'elle arrive à l'Office du Tourisme. Donc j'ai une grande pensée pour sa maman, ses parents, son mari et ses enfants. Merci. On va passer après au rapport d'activité de l'Office du Tourisme. Comme vous avez pu le lire, un contexte national pas facile. Derrière, donc une baisse des activités de 41%, que ce soit en Bretagne, en Morbihan. Vous avez que ce soit l'ADT, l'Agence départementale du tourisme derrière. Le bilan de la saison 2020, c'est 872 000 nuitées. Comme l'a rappelé tout à l'heure Olivier, nos nuitées n'augmentent pas. Hein. Nous n'avons pas... de nouvelles nuitées, même si nous avons envisagé de faire une activité pour loger les saisonniers. Je vous rappelle, ils y sont déjà, donc ça sera pas dans les nuitées. Derrière, il n'y a pas de nouveaux hôtels, même s'il y en a quelques-uns qui se rénovent. Mais en termes de nuitées, on n'augmente pas derrière, on reste sur nos nuitées. Donc là, effectivement, on est en baisse hein, cette année, puisque 872 000 nuitées marchandes en 2020, on est loin des 1,5 million qu'on a à peu près, pardon, enfin 1,2 million, 1,3 million qu'on a tous les ans, habituellement. Derrière les points d'information, ben aussi moins de visiteurs. Je vous rappelle qu'on a deux points d'information hein, qui se trouvent au bourg, un à la plage, plus depuis 2019, nous avons mis un point I en partenariat avec le CMN dans la maison des mégalithes qui pour 2020 n'a pas été activé puisqu'effectivement on ne savait pas où on allait, donc on n'a pas été, on l'a pas mis en place. Sur la clientèle étrangère, 6%. Que représente notre clientèle étrangère en baisse de 73%. Ça, effectivement, là, ça pèse lourd. Et encore, par rapport à d'autres stations balnéaires, effectivement, le fait d'avoir un pourcentage de clientèle étrangère qui n'est pas hyper important a permis, effectivement, de ne pas trop ressentir, puisque c'est dans d'autres régions, effectivement, c'est la grosse problématique qu'il y a eu, ou même tout simplement sur notre capitale, où ça a été une grosse problématique. Vous avez... les Belges qui sont effectivement les premiers à venir nous voir, les Allemands, les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne, le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni, ben, ça a baissé. Les tours opérateurs n'ont pas pu fonctionner comme d'habitude, entre autres en hôtellerie de plein air. Et effectivement, c'est arrivé en sixième position, et l'Italie. Sur le top 10 de nos départements, ben, nous avons le Morbihan, hein, qui est le premier, hein, 12%, qui représente 12%. Paris, 8%. L'Ille-et-Vilaine, 5,5%. Les Hauts-de-Seine, 4,8%. L'Yvelines, 4%. Loire-Atlantique 3,9%, la Seine-Maritime 3,1%, le Nord 3%, les Côtes-d'Armor 2%, une Finistère 1,9%. Quand vous parlez de communication, qu'on en fait de plus en plus, et que c'est peut-être pas intéressant parce que ça va nous amener plus de touristes, c'est déjà de maintenir effectivement, l'objectif, il est quand même de maintenir l'existant, parce que si effectivement c'est compliqué d'accueillir plus de touristes, c'est où ça serait dramatique aussi d'en perdre. Et je vous rappelle qu'on est en compétition avec énormément de stations de balnéaires sur le littoral et à différents endroits de la France, et que c'est pas simple de maintenir la position que nous avons. Voilà, et c'est une même démarche qui existe sur l'ensemble des communes de Sensation Bretagne, hein, qui regroupent quand même des belles communes comme Perros-Guirec, ainsi de suite, et qui ont la même problématique, avec effectivement la même logique de maintenir au moins le tourisme, même si derrière, effectivement, on sait que des fois, ça peut effectivement nuire à certains moments de l'été. On se retrouve effectivement avec du monde. Je voudrais juste rappeler une petite chose quand même pour revenir un petit peu à tout à l'heure. On est 5 000, je vais arrondir les chiffres, hein. Ce n'est pas les chiffres exacts, je vais juste les arrondir. 5 000 habitants à Carnac. Avec nos résidences secondaires, ça fait 30 000. Avec nos nuitées, on arrive à 45 000. Pendant la semaine, vous n'avez aucun problème à Carnac, quand tout est plein. La problématique, c'est derrière, nous avons 20 000 personnes qui veulent venir et qui ont le droit de venir et qu'il faut qu'ils viennent. Je n'ai aucun problème là-dessus. Des alentours qui veulent venir sur notre station parce qu'elle est agréable. Parce qu'ils ont envie aussi de profiter de cette magie qu'on a là. Et effectivement, à ce niveau-là, c'est que là que ça commence à un peu plus problématique. En plus, c'est hyper concentré et que là, c'est plus compliqué à gérer. Maintenant, je vous rappelle, hein, il y a 52 semaines dans l'année, on a besoin d'améliorer les ailes de saison. Je n'ai pas de problème, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Le Golvan. Derrière, on a un entonnoir, si on peut appeler ça. L'entonnoir, il est quand même maximum 3 semaines dans l'année. Et le vrai entonnoir, il est 2 semaines. Donc, il faut aussi relativiser derrière par rapport à toute l'économie que nous avons derrière. Et aujourd'hui, notre principale économie, elle est quand même là. Donc, attention de ne pas tomber dans des extrêmes, pas tomber ni d'un côté ni de l'autre. C'est essayer de trouver un juste milieu. L'équilibre, il n'est pas facile, je reconnais. Mais on a besoin de maintenir aussi une image de notre station si on veut maintenir nos visiteurs au minimum de ce qu'on a acquis. Voilà, c'est juste je voulais dire ça. Hein, et on le voit bien avec le Covid, hein, parce que les retombées économiques, hein, vous les avez sur le slide, je suis allé trop vite, Philippe, les indicateurs clés, hein, vous avez 1 497 000 nuitées non marchandes, 230 000 touristes, 93 000 de retombées économiques pour l'année 2020, alors que d'habitude, on est quand même plus près entre 130 et 140 000. 140 millions, enfin 140 000, ça ne va pas faire beaucoup. 140 millions de retombées économiques, excusez-moi, voilà derrière, donc c'est quand même très important. Je vous fais pas l'impact du Covid, vous les avez les chiffres, vous avez les graphes, vous avez tout lu, voilà, je vais pas vous redonner tout le détail de l'accueil, je pense que vous le connaissez, c'est un petit peu effectivement ce qu'on a, vous avez les chiffres sur les différents points que nous avons, que ce soit au bourg ou à la plage, avec effectivement, comme je vous l'ai dit, l'office de tourisme, le point I qui était fermé au centre des monuments nationaux. L'accueil qui est notre métier de l'Office du tourisme, hein, bien sûr. Donc on a une marque qualité touriste à renouveler à l'Office du tourisme en juin 2020, avec 97, qui a été renouvelée pardon, en juin 2020 avec 97% de critères de satisfaction. Donc on essaye aussi d'être quand même en haut, essayer de bien accueillir, de bien gérer nos touristes, comme on peut le faire. On a fait des investissements, on en a encore à faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Le Golvan. Qu'on a besoin de voir plus clair dans tout le détail des investissements du mandat, ça fait aussi partie, mais vous l'aurez. Et voilà un petit peu sur ce que je pouvais vous dire sur l'Office du tourisme. Alors après, sur les nouvelles communications qu'on peut avoir, effectivement, ben, il y a les mots-clés, il y a tout ça, il y a Sensation Bretagne, il y a plein de choses. Vous avez aujourd'hui les scores sur les mots-clés, vous voyez un petit peu. Carnac, on est en 8e position, hein, on est derrière Biarritz, Antibes, Cannes, ainsi de suite. On est en bagarre, on a le même problématique avec Quiberon quand même. Hein. Il faut savoir, en spontanéité, Quiberon, en termes de notoriété, Quiberon est devant nous. Voilà un petit peu les petites choses. On est devant Belle-Île, le palais, mais c'est quand même important d'avoir sur notre territoire, qui est quand même notre richesse, et de savoir le maîtriser. On en a encore discuté hier en séminaire à ACTA et ce matin. C'est vrai que c'est pas simple et qu'il faut savoir absolument trouver le juste milieu. Mais on pourra toujours être pour et contre. Avez-vous d'autres questions?
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité 2020? Enfin, je vous propose de passer...
Toute petite.
Ah, monsieur Guimard.
Est-ce que l'Office du tourisme est seulement un outil pour promouvoir la station, ou est-ce qu'il l'est aussi, et normalement je pense qu'il devrait l'être, pour l'animer?
Tous les ans, vous me posez la question, puisque l'Office du tourisme
Ça fait qu'un an que je suis là.
Joker, Yann, merci. Ceci dit, je répète, puisque tu es à l'Union commerciale de Carnac, donc je vais rebondir là, à ce niveau-là, et là, si tu vas voir, ça va te revenir tout de suite. Tu sais bien, aussi bien que moi, que l'Office de tourisme de Carnac fait de la, et l'animation touristique, on va le voir un peu plus loin, parce qu'on va avoir des nouvelles choses, donc anime, participe avec l'Union des commerçants sur différentes manifestations, quand même derrière, et que c'est aussi le but de l'Office du tourisme, c'est effectivement la communication, l'accueil. Je vous rappelle que ce qui est important, l'accueil, et l'accueil, même si on a moins de visiteurs directement à l'Office du tourisme, on a aussi nos visiteurs de nos résidents, qui soient permanents ou qui soient saisonniers, qui viennent nous voir à l'Office du tourisme pour savoir effectivement les manifestations, ce qui se passe sur notre session, où ils peuvent trouver certaines choses. Et ça, c'est très important de les avoir. Et c'est pour ça que nous avons aussi voulu garder nos deux points d'information pour avoir une information aux deux endroits importants de Carnac. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et je peux vous dire que quand vous voyez le nombre d'adhérents, si vous voulez comparer à différentes d'autres offices de tourisme, vous verrez le nombre d'adhérents qu'on a. On a une demande de professionnels de l'extérieur de Carnac pour adhérer à l'office de Carnac. Parce qu'on communique à ce niveau-là, et on communique là en interne, pas en externe, pas à l'extérieur, mais en interne. Derrière, on a besoin de garder une image de notre station, et c'est important de la garder pour ne pas la perdre non plus, parce que si demain, effectivement, on se retrouve avec une baisse d'activité touristique, on va avoir toute notre économie qui va en pâtir derrière. La balance n'est pas simple. Sur le plan d'action.
Tu fais pas, tu fais pas le budget.
Non, vas-y, comme tu veux.
Fais le plan d'action, vas-y, on votera le budget après.
Non, c'est le budget d'abord.
Je suis dans l'ordre, hein, excuse-moi.
Oui, c'est parce que le plan d'action est à suivre, effectivement, derrière.
Non, mais à la limite, moi, ça me choque pas que tu fasses le plan d'action avant, puisque, en fait, c'est une conséquence du budget, donc vas-y, fais le plan d'action.
Bon, pas de problème, on va continuer. Bon, le plan d'action, vous l'avez à suivre du bilan de l'Office du tourisme. Vous avez des petits encarts sur tout ce qui est un petit peu nouveau. Donc, je ne vais pas rémunérer tout derrière, mais vous avez l'accueil numérique, la mise en place d'un accueil à distance élargie, puisqu'on a vu qu'avec le Covid, effectivement, il y a des gens qui avaient des problèmes pour se déplacer, pour venir chercher l'information directement en physique à l'Office du tourisme. Donc, on a mis ça en place, comme l'a fait d'ailleurs d'autres collègues de notre territoire. Un site internet de séjour, pour une mise en avant sur le site internet dédié au mobile, les activités de loisirs, animation, restaurant et les informations pratiques de la station. Des diffusions de documentation au minimum deux fois par an, envoi régulier des mails, informations de la station, création. Alors là, c'est le but de maintenir toujours un contact avec effectivement nos visiteurs. On va continuer un petit peu à descendre. Le reste, je vous laisserai le temps de le lire tranquillement si vous n'avez pas encore lu. On a un but, alors ça c'est une demande, c'est une installation d'une nouvelle webcam sur Saint-Colomban. Vous savez qu'on est énormément, on est sollicité. Toutes les communes du littoral sont sollicitées par les TV pour avoir des images de la station. Nous en avions une sur le yacht club de Carnac qui nous donnait la grande plage. Et sur Saint-Colomban, alors qu'on peut avoir de belles images soit le matin ou le soir, effectivement il était important de rajouter. Donc nous avons rajouté effectivement à cet endroit-là une caméra pour diffuser des images effectivement de la plage de Saint-Colomban, puisque Saint-Colomban va devenir bientôt le centre, le cœur de notre commune. N'est-ce pas, Françoise? C'est bien compris, c'était le message. Même si on doit vendre un bout, mais on va quand même garder le reste. La création d'un pass tourisme proposant des offres ou des bons de plan sur la station, l'utilisation d'outils de commercialisation en ligne à vélo. Alors, je vous rappelle, on a passé tout ça en commission de finances, tout ce qui était l'Office du tourisme, et on l'a repassé en CODIR. Donc je sais, pour certains, c'est déjà un peu de la redite derrière, puisqu'on vous a tout expliqué ça, avec des professionnels pour ceux qui étaient au CODIR, puisque le vice-président Denis Garcia est intervenu, entre autres, sur ce produit-là, pour essayer de trouver, de mettre en place avec des professionnels quelque chose par la suite à terme, d'avoir une sorte de carte de séjour qui vous permet d'aller directement, d'avoir des choses offertes directement chez nos commerçants, financées par nos hébergeurs. Donc on est en train de travailler sur ce genre de choses pour mettre en place, comme on l'a fait pour le Covid en fin d'année, avec des tickets cadeaux, toujours dans le même esprit. Je vous rappelle que l'Office du tourisme a évolué depuis 2 ans pour pouvoir être aussi avec l'ADT et le système Eloa, de pouvoir faire une billetterie, qui nous a permis d'arriver sur certaines manifestations à pouvoir les faire évoluer en devenant aussi payantes.
et d'avoir une billetterie directement chez nous avec une maîtrise totale. Ça, c'est des choses importantes et qui nous permet d'avancer. Les événements, ben, vous avez le passage du Tour de France au mois de juin, fin juin. On a en nouveau une vidéo sur le mapping sur l'église de Saint-Cornélie. Pourquoi on essaye de faire vivre notre bourg derrière. Aujourd'hui, l'union avec l'union des commerçants qui a été à l'origine du marché nocturne qui a lieu tous les jeudis pendant la période estivale, on a une animation dans notre bourg. On a refait une grande partie de ce bourg-là et c'était pour le mettre en valeur. On a un patrimoine historique extraordinaire qui n'est pas que les menhirs, mais qui sont nos chapelles, notre église, avec un nouveau coq, bientôt demain un nouveau Saint-Cornélie, et c'est aussi de la mettre en avance et pour maintenir une dynamique dans notre bourg, que tout ne soit pas concentré sur la plage. Voilà un petit peu les nouvelles.
Il est revenu le coq, hein.
C'est bien. Le coq est revenu, oui. C'est pas à Saint-Cornélie.
Ah non, pas à Saint-Cornélie.
Voilà, ça va venir, il y a un bout qui est revenu mais pas l'autre. Tout à fait, une création d'une charte de développement durable. L'édition d'un support synthétique et de bonnes pratiques en matière de tourisme durable sur le territoire, intégrée sur le site de Séjour, la page dédiée aux éco-gestes, puisqu'on travaille avec Catherine Alain là-dessus pour effectivement notre politique de zéro plastique. Si je ne dis pas de bêtises, Catherine, tu me reprends, n'hésite pas. Et voilà. Et donc, on est en train de travailler avec tous nos partenaires et avec Catherine pour mettre ça en place. Voilà un petit peu nos nouvelles actions, mais vous les avez en détail. Hein. Je pense que vous avez pu largement lire en détail derrière.
On passe sur le...
Le budget, alors vous savez que le budget de l'Office du tourisme, c'est la M4. Derrière, on a eu un pré-budget qui a été voté au mois de novembre, fin octobre, début novembre. Donc là, c'est un budget modificatif puisqu'on a l'atterrissage. Donc je vais vous présenter effectivement le budget. Donc la présentation, vous avez lu, on va revenir un peu, les dépenses de la section de fonctionnement. Donc on est... 1 million qui était 1 million 338, les recettes de la section de fonctionnement à 1 million 81. Le résultat du fonctionnement reporté qui peut vous paraître important, qui est 256 166 euros. Je voudrais juste vous rappeler une petite chose, hein, on est sur une M4, chaque fois qu'il y a un excédent de chaque année, il revient systématiquement en haut de bilan au départ, donc on sait un peu aussi une partie, là vous avez un peu plus de 60 000 euros qui sont des excédents cumulés des autres années, et dedans il aurait dû avoir une provision qui n'a pas été faite, c'est le fonctionnement de la collectivité, on avait pris une décision avec la commune de ne pas faire payer les adhésions et les publicités pour 2020 aux professionnels suite au Covid. Les décisions avaient été prises au mois de mars de l'année dernière et certains de nos adhérents avaient effectivement déjà payé. Et au lieu effectivement de les rembourser, ils ont 2021 qui est gratuit. Donc on aurait dû provisionner. Le problème, c'est que ça ne se fait pas. Donc là, vous avez un décalage de 100 000 euros pour être clair dans les comptes. Voilà un petit peu. Sur l'investissement, 34 000 euros dans les dépenses, 21 000 sections d'investissement. Pour les recettes, pardon, excusez-moi, 13 000. Qui nous fait, et donc nous avons un total de budget pour 1 372 000 de chaque côté, effectivement, entre les recettes et les dépenses, et avec un excédent, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Les détails de dépenses, vous les avez, je ne vais pas revenir dessus. La première dépense de l'Office du tourisme, c'est bien sûr sa masse salariale, puisque par définition, c'est un établissement qui reçoit du public et qui est là pour enseigner le public. Et la deuxième dépense, c'est effectivement tout ce qui est touche à la communication. La première recette, c'est effectivement la taxe de séjour. Comme vous avez pu le voir, effectivement, aussi dans le compte administratif, et quand le trésorier était là, la taxe de séjour, elle a baissé, à peu près pour 670 000 euros sur une année normale de 2019, avec un 440 000 euros pour 2020 en réel, 480 qui a été ventilé, puisqu'il y avait les reports de N-1, alors qu'elle a bénéficié des avances de la commune à la hauteur de 510 000 euros, puisque c'est la convention que nous avons avec l'Office de tourisme pour la hauteur de 510 000 euros. Mais je vous rappelle que la commune a été compensée à la hauteur de 216 000 euros par l'État sur les pertes de la taxe de séjour et sur les pertes du casino. Et comme vous l'avez entendu l'autre jour, M. Boitoura nous a confié qu'on devrait avoir à peu près autant. Mais on verra bien, je suis un peu plus sceptique là-dessus. Voilà pour les comptes. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes de 2020 ? sur le budget de 2021, vous l'avez lu, est-ce que vous avez aussi, voulez-vous le détail ou avez-vous des questions à poser dessus ? Ça a été déjà présenté à plusieurs reprises.
Est-ce qu'il y a des questions sur de 2020 à 2021 ? Donc ça, contrairement au rapport d'activité et au plan d'action 2021 qui ne font pas l'objet d'un vote, ce budget, évidemment, fait l'objet d'un vote. Donc je vais vous demander s'il y a des votes contre, s'il y a des abstentions. Ah, Madame Le Golvan, des votes contre ? Madame Le Golvan contre. Monsieur Guimard ?
Non, abstention.
Abstention, d'accord, très bien. Donc le reste, le rapport est adopté, je vous remercie. On passe à la subvention, puisqu'il y a également une subvention à l'Office du tourisme.
Je vous en ai parlé rapidement, la subvention, on a une convention, il y a plusieurs subventions, on a déjà, j'allais partir dans le désordre, pardon, excusez-moi, puisque là on parle de subvention, on a parlé tout à l'heure, Yann qui m'a parlé des animations, donc effectivement il y a une subvention spécifique de 45 000 euros cette année pour les animations demandées par la mairie et que c'est l'Office du tourisme qui s'en charge, qui était 35 000 euros en 2020 et en 2019, la différence de 10 000 euros, c'est pour une nouvelle manifestation où je vais laisser peut-être Catherine plus évoquer, non, juste parler du salon, pas du livre, je ne sais jamais le nom, excuse-moi.
Oui, c'est un salon du livre qui aura lieu aussi en aide de saison, donc du 18 au 20 juin, donc il s'appelle Carnac et l'air livre, et donc il est en cours de finition, voilà, le projet.
La Covid nous laisse tranquille.
Si la Covid nous laisse tranquille. Voilà. Ne me casse pas mon rêve.
Donc effectivement, ce salon du livre qui a eu lieu plusieurs années avant, c'était au niveau de la avec une association au niveau de la placette de Port-Andreau, mais cette association n'existe plus. Et on avait l'occasion avec Jean-Marie Kemener de pouvoir en refaire un derrière. Donc Catherine s'est mise en relation avec Jean-Marie pour monter ça. Comme il n'y avait pas d'association, on l'a fait porter par l'Office du tourisme. C'est pour ça qu'il apparaît à l'Office du tourisme. Vous avez autrement une subvention de fonctionnement d'un montant de 21 000 euros sur justificatif des dépenses qui en général, pour le fonctionnement, qui en général n'est pas débloqué, effectivement, puisque l'Office de tourisme n'en a pas besoin. Et une subvention de 25 000 euros qui, elle, est exceptionnelle par rapport, qui est conditionnée à la collecte de la taxe de séjour, puisque je vous rappelle qu'on a un office de tourisme qui, par définition, va aujourd'hui investir et engager des dépenses avant de recevoir la taxe de séjour, donc n'a pas de fonds de roulement, parce que c'est pas possible, vous l'avez vu, donc on est obligé d'avancer les montants, et à un moment, il part sur un budget prévisionnel avec un minimum de recettes, c'est pour ça qu'on ne met que 510, quand même qu'on en a plus, tout simplement pour être sûr d'équilibrer, et que si on est en dessous, il peut avoir une compensation à la hauteur de 25 000 euros. Qui n'a jamais été débloquée à l'heure actuelle, puisque l'année dernière, celle qu'on a débloquée pour la compensation de la taxe de séjour était liée par rapport à ce qu'on a compensé l'État. Donc c'était normal que ça revenait. Je vous rappelle que l'Office du tourisme est un établissement public industriel et commercial et que systématiquement, le montant de la taxe de séjour revient à l'Office du tourisme. Et que notre Office du tourisme est autonome avec sa taxe de séjour, voire même, comme vous l'avez pu voir, excédentaire, tout en faisant des animations et de la communication, effectivement, un peu plus dynamique que ce que ça avait été fait dans le temps. Et qu'on a mis quand même pas loin de 25 ans à pouvoir arriver à ça, qui n'était pas si simple que ça. Et il y en a beaucoup qui nous envient à ce niveau-là aussi. Mais quand on s'est cadré, on voit qu'on arrive à gérer avec les fonds qu'on reçoit. Je n'ai pas autre chose. Ouais. C'est des questions.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur cette... subvention 2021 à l'Office du tourisme. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Madame Le Golvan, abstention. Le rapport est donc adopté, je vous remercie. Ensuite, comité d'éthique pour la vidéoprotection. Alors là, il s'agit simplement de remplacer Monsieur Chapelle, qui a démissionné donc dans les titulaires. Et donc c'est Marie-Pierre qui le remplace. Il y a également Katia, je crois, qui rejoint ce comité en termes de suppléants. Donc pour ce qui concerne la représentation de la minorité, elle reste inchangée, sauf à ce que... Tom, tu continues. Parfait. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Madame Sylvie Robineau, sur une cadastre au sein de la résidence autonomie.
En 2019, on avait voté pour une modification, alors le conseil d'administration du CCAS, puis le conseil municipal ensuite, pour une modification des parcelles. Parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, on a eu un leg avec une dame et on avait décidé de faire un aménagement du parc. Et ce parc était à la propriété bail amphithéotique de BSH. Donc on a fait une modification, un échange. Et donc là, il s'agit d'autoriser le président du CCAS de signer des nouvelles références cadastrales. Enfin, c'est les numéros de cadastre qui ont changé. Donc il s'agit des nouvelles références cadastrales. La parcelle BE330, c'est le bois qui appartient au CCAS, reste comme ça. Et par contre, les parcelles BE502 et 505, ils font objet de la convention de location entre Bretagne Sud Habitat et la résidence autonomie, parce qu'il y a une servitude à laisser pour les pompiers autour. Voilà. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions,
il n'y a rien dessus. Ok, c'est juste une régularisation administrative qui nous a permis d'utiliser ce leg pour refaire le parc. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, puisqu'on parlait de servitude de passage, c'en est une. Avec Enedis.
C'est une servitude de passage avec Enedis qui passait sur les terrains communaux et du domaine privé communal pour améliorer le branchement de l'hôtel Celtic, c'est tout. Donc il faut faire une convention pour savoir où passer les réseaux et que ce soit fait correctement. Voilà.
En général, sur ce genre de rapport, il n'y a ni question ni opposition. Ce sont des choses purement administratives. J'imagine que tout le monde est d'accord. Je vous remercie. Monsieur Durand. Oui. Le secteur de la paix de Kéralance, vous allez nous expliquer pourquoi on fait un sursis à statuer.
Donc, ça concerne l'OAP de Kéralan. Donc, je rappelle quand même, nous avions déjà délibéré au dernier conseil du mois de septembre sur trois autres OAP. Il y avait celle du Roer. Celle du Roer, c'est celle qui part de l'avenue du Roer qui va jusqu'à Colary. Celle du Ménec également, qui est derrière la salle des pompiers. Et celle du Roer, mais sud. Que vous ne voyez pas, mais on ne voit pas de la route d'ailleurs, qui est juste en face, pour vous indiquer exactement l'emplacement, en face du bâtiment Philly qui est en train de se construire. Vous voyez ? Donc en fait, on a une étude de redynamisation de la ville. Les deux axes majeurs sont la protection, donc encadrée du logement, et les mobilités. Et les OAP ne concernent malheureusement uniquement que le développement de l'habitat, et pas le développement d'équipements et d'activités. Donc il va être pris en considération la mise à l'étude d'opérations d'aménagement sur certains secteurs de la commune, ce qui autorisera la commune à sursoir à statuer sur toute demande d'autorisation des travaux et de construction. Donc c'est exactement les mêmes délibérations que l'on a prises il y a un an, au mois de septembre.
Donc il s'agit
s'il y a des questions, on en a parlé en commission.
De freiner un petit peu sur ces OAP et de se donner le temps
Et surtout d'apporter de la qualité, mais cela, bon, grâce à l'étude de TICA qui est en train de se faire actuellement. Jean-Luc, tu peux compléter si tu veux. Voilà, on a tout dit.
Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Guimard?
Il y a 14 OAP. Là, on en a déjà passé 3, on en passe une quatrième. Est-ce qu'on va passer les autres? Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en même temps? Puisque les autres OAP sont aussi dans le bourg ou près du bourg.
Pas toutes. On pourrait pas faire des sursis à statuer sur toutes les OAP, parce que là, on irait à l'encontre des objectifs du PLU et des objectifs sur lesquels on est tenu par le SCOT. Donc, il s'agit de se concentrer sur celles qu'on veut pas voir sortir trop vite, ou sur lesquelles il y a une problématique stratégique liée à l'aménagement de la commune, c'est-à-dire celles qui sont dans des endroits un petit peu particuliers, mais on va pas faire ça pour toutes les OAP, non.
Ok, mais du coup, il en existe d'autres quand même
qui
pourraient rentrer dans ce cadre-là.
Oui, mais je viens de répondre. On ne peut pas toutes les mettre.
Non, pas toutes, mais il y en a d'autres qu'il faudrait peut-être mettre. Les Genèses, Saint-Colomban, par exemple.
Ils ne sont pas dans le
les
cadre.
Les salines n'ont pas été mises.
Non, je pense que Jean-Luc peut mieux vous expliquer.
Ils ne sont pas dans le cadre de la réalisation du bourg. Alors, pour faire ça aussi, Yann, il faut une raison juridique. C'est-à-dire que tu dois la motiver. Tu ne peux pas simplement faire un sursis à statuer. Je peux pas, si tu as un terrain constructible et je dis, voilà, ton terrain, je fais sursis à statuer sur la construction, il faut que je trouve une raison juridique. Là, la raison juridique, et qui est donc acceptable et acceptée par la jurisprudence, c'est que nous avons une étude sur un périmètre. Et donc, comme on a cette étude, on veut se donner le temps d'aller à la fin de l'étude avant de lotir. Mais sur les autres, on n'a pas non plus de substrat juridique pour faire éventuellement un sursis à statuer. Donc c'est pas aussi simple.
Vous pourriez nous redonner cette zone là alors du coup. Je sais pas si c'est Monsieur Servet.
Monsieur Servet, enfin,
en gros c'est bourg, quel espace.
Il n'y a pas une limite géographique dessinée, un trait sur la carte. C'est le principe de l'étude de redynamisation bourg. Donc on est sur une centralité bourg. Donc effectivement. Des zones comme Kéralan sont dans ce secteur de centralité bourg. Si on est sur les Genèses ou autres, on est plus loin. On n'est plus dans la notion, dans l'objet de l'étude qui est la centralité bourg en termes de, comme l'a dit très justement Michel, d'habitat, principalement d'habitat et de mobilité, hein, qui sont les deux axes d'étude.
D'accord, mais on n'a pas, du coup, on n'a pas utilisé ce levier-là pour les Salines et la Poste.
Non, mais parce qu'ils ont été réalisés avant l'étude de dynamisation bourg. C'est-à-dire
derrière le casino, ce n'est pas encore réalisé finalement.
Non, mais les permis et les dépôts étaient faits et accordés avant.
Deux remarques. Quand on voit qu'on vote en conseil municipal pour que vous puissiez justement stopper ou freiner. Cette frénésie de construction là sur 4 OAP. Vous dites aussi que justement vous allez que c'est nécessaire de voter ça pour que on puisse faire autre chose que du logement, c'est-à-dire des équipements et des activités. Donc je suppose qu'au bout de la quatrième OAP qu'on est en train de voter, vous avez une idée de ce qui va se profiler, se projeter dans. Sur ces sites ?
Alors non, pas encore, parce que justement le cabinet TICA, il travaille actuellement dessus. Hein, je crois que vous êtes rendu à peu près à ce niveau-là, Jean-Luc. Mais là, il n'y a rien de déterminé pour l'instant.
Non, en fait, je me permets juste de vous reprendre un peu. En soi, c'est pas dans l'absolu l'objectif de freiner la construction de logements. L'objectif de cette délibération, c'est de se dire qu'on a une étude de redynamisation bourg qui est en cours, que cette étude n'est pas achevée, que dans le cadre de cette étude, il y a des réflexions d'ensemble, que, par exemple, cette OAP est dans ce secteur ou en interface avec cette réflexion d'ensemble, et qu'il ne faut pas qu'on prenne le risque de voir aujourd'hui ou demain matin se déposer un permis et un lancement de construction, alors qu'on pourrait avoir des interfaces importantes à gérer dans le cadre de l'étude de dynamisation bourg qui est suffisamment avancée pour qu'on en soit effectivement à des réflexions, à des interpellations qui émanent des bureaux d'études, du groupement de bureaux d'études, mais qui pour autant ne sont pas tout à fait figées et qu'il ne faut pas qu'on prenne ce risque-là pour l'aménagement de la commune de demain, de se priver ou devoir engager des choses irréversibles alors qu'on aurait pu, dans le cadre de la finalisation de l'étude de dynamisation bourg, qui va survenir dans les prochains mois, je dirais agir ou interagir à différents endroits de la commune sur des sujets comme par exemple la typologie de logement, comme par exemple tel ou tel circuit de mobilité qui pourrait s'inscrire dans le schéma de l'OAP, etc., etc. Donc voilà, il n'y a pas aujourd'hui un état suffisamment avancé ou abouti pour dire c'est décisionnel, mais l'état est suffisamment avancé pour dire attention. Il faut préserver et interagir dans l'ensemble de l'aménagement urbain de demain de la centralité bourg.
Justement, par rapport à ça, vous avez constitué un groupe de travail, je l'ai vu dans le journal. Vous vous êtes réunis de combien de fois depuis septembre ?
Alors, les bureaux d'études qui sont à l'origine de ce principe de travail auquel on a adhéré sans aucun état d'âme, au contraire, c'est-à-dire que le bureau d'études, dans sa démarche d'analyse et de proposition, sollicite un panel de concitoyens. Et en fait, si vous voulez, ça a démarré par une visite de Carnac, enfin sur deux circuits de randonnée, on va appeler ça comme ça, avec le bureau d'études, au démarrage de l'étude, ce qui a permis de recueillir des observations, des avis, etc., dans sa phase de diagnostic. Une fois que cette phase de diagnostic est faite, ce qui est le cas, on est à ce stade-là, le bureau d'études resollicite normalement à plusieurs reprises en étape dans son processus de diagnostic, il resollicite ses concitoyens pour différents ateliers de travail. Ça aurait dû être fait déjà depuis quelques mois. Là, on est vraiment sur un effet Covid qui a empêché les réunions de travail, d'ateliers de travail. Donc ça a été fait il y a quelques jours. C'est le bureau d'études qui réinitialise, qui est à l'initiative de ces réunions, de ces ateliers, qui invite les concitoyens. Ça s'est déroulé samedi dernier. Il y aura encore sûrement une ou deux étapes, mais c'est vraiment le bureau d'études qui pilote ça en dehors de toute, je dirais, ingérence ou influence des élus ou de la commune.
Donc en fait, il y a ce groupe de travail des administrés, mais donc en septembre, au conseil municipal de septembre, Monsieur le maire m'avait proposé en fait de faire partie du comité de pilotage, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Est-ce que ce comité de pilotage s'est réuni ou alors ça m'a échappé?
Oui, tout à fait, mais de mémoire, vous étiez qui c'est? En confusion avec le comité de pilotage musée, autant pour moi, où là il y avait la présence. Le comité de pilotage ne s'est pas réuni. Non, je confondais avec le comité de pilotage musée, pardon.
C'est pour ça qu'un peu, enfin, j'ai hâte à cette première réunion parce que on voit redynamisation dans toutes nos lectures. Maintenant, c'est le mot qui est utilisé, qui même bientôt va être usé. Et finalement, franchement, moi, j'arrive pas à me projeter, à voir ce qui va être fait derrière. Parce que bloquer les OAP, c'est quelque chose. Là, ça fait la quatrième. Après, je ne suis pas contrariée par ça, hein, mais j'arrive pas à visualiser. Parce que les chemins, enfin déjà, quand les OAP ont été faites par les cabinets d'études, par EOL, on voit bien que les sentiers, enfin tout était respecté, c'était écrit noir sur blanc. Donc, qu'est-ce qui peut être fait de plus? Après, tant mieux, hein, si c'est moins construit et tout ça, mais j'ai du mal à me projeter, en tout cas.
Ce sera des sujets qu'on sera amené à discuter lors du comité de pilotage, évidemment. Mais je pense qu'effectivement, vous allez... moi, je suis un peu comme vous, Madame Le Golvan, hein, je n'ai pas encore participé, j'ai rencontré... mais j'ai hâte de voir, effectivement, ce qu'on va nous proposer et quelles vont être les propositions de réalisation concrètes dans le cadre de cette étude. Ok, je vous propose de...
Un truc, Olivier. Oui, je voulais dire également, c'est qu'il y a une grosse veille d'architecture. À titre d'exemple, M. Kurt, qui surveille les projets, évidemment, qui travaille de pair avec Tika aussi, il a refusé déjà au quatrième fois la dernière OAP, là. Quatrième fois, parce que ça ne lui convenait pas au niveau architecture. Donc il y a quand même une veille architecturale qui est importante, quoi. Et ça, c'est bien.
C'est dommage que je ne suis plus à la commission d'urbanisme, parce que depuis le temps que je vous rabâchais ou je vous cassais les oreilles avec... continuité architecturale, donc c'est plutôt satisfaisant.
Ben oui, merci.
Alors, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Un dernier sujet. Alors, je suis désolé, il n'a pas été présenté en commission, mais je pense que compte tenu de son intérêt, c'était intéressant et c'était surtout urgent de le faire passer en conseil municipal. Hein, et je vais laisser Catherine et Jean-Paul, qui ont beaucoup travaillé sur ce projet assez novateur et prometteur, vous le décrire, mais je pense que c'était important qu'on puisse faire voter le Conseil dès cette séance pour pouvoir mettre en place ce jeune agriculteur. Donc Catherine et Jean-Paul, en tout cas, merci pour ce beau projet, parce que beaucoup de travail et un projet vraiment riche et intéressant.
Alors, effectivement, il y avait une certaine urgence à passer le projet en conseil municipal, tout simplement parce que pour qu'il puisse aboutir, il faut qu'il démarre absolument au mois d'avril pour la préparation du terrain, puis pour la semence qui se fera au mois de fin avril, début mai, pour avoir notre première récolte au mois de septembre. Le projet est simple. Avec Jean-Paul, on travaille effectivement sur, et Jean-Paul en particulier, sur la partie redynamisation de l'agriculture, redynamisation à nouveau, de l'agriculture sur Carnac. On a, en septembre 2019, la commune a signé une convention avec plusieurs propriétaires, de nombreux propriétaires sur la zone que vous voyez là, à Saint-Colomban-le-Pau, où l'objectif était de préserver la biodiversité, et notamment par la lutte contre le baccaris. On a étudié avec Jean-Paul et les services plusieurs projets, aussi avec la Chambre d'agriculture. Il se trouve qu'il s'agit d'avoir un projet qui soit, bien sûr, dans absolument 100% biologique pour préserver la zone. Et puis, en même temps, un projet qui puisse être pédagogique. Et l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un projet qui puisse faire non seulement de la culture, culture qui amènera à avoir des productions qui pourront être servies à la cantine scolaire, en tout cas, c'est un des objectifs, des produits qui pourront être dans nos commerces carnacois. Et c'est dans ce cadre qu'on vous propose de favoriser l'installation d'un jeune agriculteur qui est en train de travailler à fond là sur la préparation de son projet pour être fin prêt. L'objectif sur les 10 hectares, c'est qu'il puisse planter cette année 5 hectares. Et puis ensuite, on se développera éventuellement sur d'autres cultures. Ça peut être des cultures de blé noir, cultures de lin, voire, puisque c'est un de ces actes, ces axes de développement, potentiellement travailler sur l'élevage d'insectes comestibles. Je sens que vous vous régalez d'avance, vous avez raison.
On vous mettra un petit bol avant chaque conseil municipal à vos places pour qu'on puisse goûter les petits insectes comestibles.
Et voilà, j'espère qu'un jour on pourra les déguster en conseil municipal. Bon, avant on aura potentiellement les pâtes au chanvre à déguster, pourquoi pas lors d'un conseil.
Ça se fume pas le chanvre non plus ?
Alors, je vais repréciser.
Que Pascal va pouvoir essayer.
Je reprécise quand même que le chanvre est une culture où tout est utilisé. La plante sert pour le textile, pour le bâtiment, pour l'isolation. Oui, tu connais bien Saint-Michel. Oui. Et puis, bien sûr, dans l'agroalimentaire, puisque la graine est utilisée et particulièrement riche dans l'alimentation. Et puis, il y aura donc des actions pédagogiques qui seront mises en place. Vincent s'est engagé à accueillir des jeunes sur la zone, que ce soit les jeunes des écoles, les jeunes du centre de loisirs, pour expliquer ce qui est réalisé sur la zone.
Parfait, merci. Est-ce que j'imagine, Monsieur Guimard, les insectes ?
Donc, a priori, cet agriculteur, cette personne qui vient, c'est pour quelques années.
Alors, l'objectif, bien sûr, c'est que ce soit pérenne. La convention qui a été signée avec les propriétaires est de 10 ans, renouvelable.
Okay.
Et bien entendu, s'il vient... Alors, il habite Plougoumelin, mais l'objectif, c'est pas de le... Plougoumelin. Ah, Plougoumelin. Et je vais encore me faire engueuler.
C'est compliqué en Bretagne, hein. Plougoumelin.
Et l'objectif, bien sûr, c'est qu'il puisse se projeter dans l'avenir, d'autant plus qu'il est important de noter que ce projet va coûter 0 € à la commune, alors que l'entretien de la zone coûte beaucoup d'argent chaque année. C'est lui qui va faire le nettoyage des parcelles qui correspondent aux 5 hectares. Donc, bien entendu, on le signe pour l'année 1, mais l'objectif, c'est qu'il se projette sur la durée pour que ce soit pérenne pour lui.
Justement, dans ce que vous voulez nous faire signer, c'est pour cette année seulement. Est-ce qu'on n'aurait pas pu ou dû envisager de lui faire gratuité de cet espace-là pendant les 2 ou 3 années prochaines, comme on l'a fait pour la yourte, par exemple?
Oui, alors je crois que ce sont des questions de contraintes administratives, le fait que ce soit...
On le fera l'année prochaine, en tout cas c'est l'objectif, Yann. Hein.
C'est
qu'il soit là gratuitement, parce qu'en fait il rend un service. Hein, donc.
Ouais. Clairement l'objectif est là, c'est de pérenniser l'action. Et point important, tous les propriétaires ont bien sûr été informés au préalable, même s'ils nous laissent la liberté d'occuper ce terrain et de le préserver. Il était important qu'ils sachent ce qui se passe sur ces terrains. D'autres projets viendront d'ailleurs sur la zone, on aura l'occasion d'en reparler.
Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce...
Pardon.
Oui, monsieur le Cardoquin.
Donc en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces terrains-là ont été proposés aux agriculteurs de Carnac, ne serait-ce que par politesse. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'on est un peu surpris du nombre de demandes qu'il y a pour trouver quelques hectares pour faire du maraîchage, faire quelques cultures, etc. Et donc, quand on voit Saint-Colomban entre le village de Saint-Colomban et les trois cheminées, là, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a une quinzaine d'hectares qui sont quasiment en friche et qui sans doute mériteraient d'être exploités. Voilà.
Parfait. En tout cas, effectivement, très très beau projet. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des... Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Le rapport est adopté. Le conseil municipal est clos. Je voudrais simplement donner la parole à Marie... À Christine, pardon, puisque nous sommes à la recherche de bénévoles pour le centre de vaccination. Et donc, je pense que c'était intéressant que tu puisses faire un petit appel...
Non, je voulais surtout faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé depuis mercredi. C'est-à-dire que mercredi, on a, par communiqué de presse, fait paraître le fait que Carnac voulait ouvrir un espace éphémère de vaccination pour que les Carnacois puissent se faire vacciner ici. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont présentés, il n'y a pas trop de problèmes. Mais on a quand même eu 300 inscrits en 3 jours. Alors, ça fait beaucoup, ça fait pas beaucoup. Ce sont des gens qui sont sur des listes d'attente. Et dans le 2 ou le 3 avril, il va y avoir une réunion avec l'ARS qui va nous donner le nombre de vaccins qu'on pourra utiliser. Donc, pour l'instant, c'est une préinscription sur des listes et... À partir du 2 août, Donc à partir du 2 avril, on rappellera les gens pour leur donner leur rendez-vous. Donc rappeler les gens, ça veut dire beaucoup de monde pour nous aider à reconvoquer toutes ces personnes-là. Voilà. Et je voulais dire qu'il y avait déjà quand même 14 infirmières qui avaient répondu oui et qui seront là pour aider à ce centre. Et il y a 4 médecins, dont 2 médecins qui sont à la retraite et donc qui ont proposé leur service. Voilà. Si vous voulez, on prend les inscriptions pour... Toi, tu veux te faire piquer?
Non, je veux piquer.
Non, alors c'est pas possible.
Monsieur le maire, peut-être juste...
Excusez-moi, est-ce qu'on sait à quel vaccin ça va se faire? Quel produit? D'accord.
Non, c'était juste un point, notamment pour nos amis de la presse, c'était de rappeler que Monsieur le maire avait, il y a déjà un certain nombre de mois, précisé au préfet du Morbihan que nous souhaitions monter un tel centre de vaccination au niveau de Carnac. Pour un certain nombre de raisons qui sont nationales, ça ne nous avait pas été accordé, que maintenant les choses avancent et qu'on nous l'a autorisé, et que le chiffre de 300 personnes est absolument considérable sur le report à notre population. Donc encore une fois, on a pu démontrer que l'action municipale sur le terrain en proximité, il n'y a que ça de vrai. Donc bravo.
Voilà, il y a un courrier qui est parti aujourd'hui à toute la population au-dessus de 71 ans pour que les gens qui, s'ils ne l'ont pas vu dans la presse, soient au courant. Qu'on n'entende pas quelqu'un demain qui dise « Ah ben, j'étais pas au courant, pourquoi on m'a pas invité ?»
Donc, nous sommes tous contre le tourisme de masse, mais on est pour la vaccination de masse.
Oui. Bon
week-end à tous. Et merci à tout le monde.
Tu me donneras ma lettre après.
Je veux voir quelque chose.
Ah oui. Merci, monsieur le maire. Mon prénom, c'est Christine. Au métro, là, tu peux...